Radio Immo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour à toutes et à tous et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 39e numéro, et oui déjà 39 numéros, vous nous êtes extrêmement fidèles, on est ravis d'être avec vous. Pour ce rendez-vous, on est au mois de mai, il fait très beau, il fait très chaud, mais c'est aussi les moments où on se pose le plus de questions sur le parcours résidentiel, et c'est bien de cela dont on va parler d'investissement, et notamment d'investissement locatif. Et d'ailleurs, on va vous faire bénéficier de quelques reportages que nous avons réalisés récemment. On est allé à la rencontre des Français pour leur demander si, justement, l'investissement locatif, le placement immobilier est un placement sûr. Voilà, pour ce 39e numéro, toujours accompagné de mon fidèle complice, on devient presque un vieux couple hein, maintenant. Salut Guillaume.
Oui, salut Sylvain. Oui, ouais, effectivement, s'intéresser à l'investissement locatif. Dernière année du Pinel, nu, meublé, Airbnb. On le sait, tout ça passionne effectivement les Français. Et pour nous, pour répondre à toutes vos questions, on aura deux invités ce jour. Thierry Vignal, président de Mastéos, société spécialisée, start-up spécialisée qui accompagne les particuliers dans l'investissement locatif. Bonjour.
Bonjour.
Et Franck Vigneault, directeur du laboratoire de l'immobilier. Et qui suit surtout les stades dans le neuf.
Exactement, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Voilà, on a deux V, si je peux. Donc, c'était pas fait exprès, hein, voilà. Donc, merci Thierry Vignal et Franck Vigneault d'être avec nous. Justement, pour ce numéro, on passe tout de suite à la première partie, tout de suite après ça.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
Rebonjour à toutes et à tous pour cette première partie avec nos grands témoins. Je vous le dis tout à l'heure aussi, vous avez vos séquences préférées de Ça vous concerne, avocat, notaire, agent immobilier, pour vous donner les meilleurs conseils pour vous accompagner. Sur le plateau de Radio Immo et de Capital, donc on retrouve nos invités du jour, le président de Mastéos, Thierry Vignal. Vous êtes une start-up qui accompagne les investisseurs dans l'immobilier ancien, vous allez un peu plus nous en parler. Et pour le neuf, c'est Franck Vigneault qui est avec nous. Vous êtes le directeur du laboratoire de l'Immo, avec aujourd'hui une vision que vous avez d'expertise sur l'immobilier neuf. Et Dieu sait qu'en ce moment, l'immobilier neuf, on ne peut pas dire qu'il se porte extrêmement bien quand on voit aujourd'hui le nombre d'autorisations d'urbanisme ou de permis de construire qui est plutôt en berne. La première question, comme cette tradition dans le rendez-vous de l'immobilier, c'est Guillaume qui vous la pose.
Première question pour une première partie qu'on va consacrer à l'ancien, si vous voulez bien. On parlera du neuf plus tard. Et je vais m'adresser à vous en priorité, monsieur Vignal. Dans un contexte d'incertitude économique qu'on connaît actuelle, et notamment de retour de l'inflation, on peut se poser la question, en quoi l'immobilier est encore un placement attractif ?
La pierre, au même titre que l'or, déjà, c'est considéré comme une valeur de refuge. Alors, on peut se servir de cet argument, c'est pas le plus puissant, mais disons que quand les cryptos se crachent, quand la bourse s'effondre, ça reste toujours, la pierre, c'est du tangible, donc c'est quelque chose qui rassure. Mais l'argument le plus puissant en ce moment, c'est surtout l'inflation, parce qu'en fait, cette inflation, elle a vocation plutôt à faire apprécier les actifs à la hausse, en tout cas historiquement, mais c'est surtout qu'elle grignote la dette qu'on doit aux banquiers à la baisse. Et quand on fait un investissement locatif, on utilise l'argent de la banque pour financer un bien, les locataires vont rembourser le prêt, mais c'est surtout l'argent qu'on doit à la banque, elle est grignotée en termes réels par l'inflation. Donc j'ai d'un côté des actifs qui ont tendance historiquement à suivre l'inflation à la hausse, ne serait-ce que les loyers, hein, il y a une révision IRL annuelle plutôt à la hausse qui est indexée sur l'inflation, et ma dette, elle ne fait que baisser en valeur réelle. Donc je suis plutôt gagnant, on parle des taux nominaux en économie et des taux réels. Le taux réel, c'est le véritable coût de l'argent, c'est le taux nominal moins l'inflation. Aujourd'hui, on emprunte à 1,5 et on a une inflation qui est autour de 5,5. Donc en fait,
ouais, plutôt 1,5. D'ailleurs, on pourrait même, si on fait un peu d'économie, dire qu'une inflation à 5,2 sur le mois-ci et un taux d'intérêt, je prends l'exemple sur 20 ans d'un 45, on serait presque sur un taux d'intérêt négatif
hein. Absolument, si c'est même le cas hein, donc, on est à moins 4
donc,
en taux réel.
Comme dans les années 90 d'ailleurs, où on empruntait à 14 ou 16%, ouais. On avait une inflation à 10-15.
Et la pierre captait cette inflation à la hausse.
Et oui, et donc du coup, ça devient plus que jamais. Parce que l'idée reçue qu'on a, et c'est ce j'aimerais que vous nous expliquiez aux particuliers, c'est que plus que jamais, il est temps d'investir, même en période inflationniste.
En tout cas,
à
sur le papier.
Qu'on ait des taux maîtrisés, on est d'accord.
En tout cas, ça n'handicape pas.
De toute façon, les taux, ce qu'on appelle les taux, donc les taux nominaux, ils sont fixés par la Banque Centrale Européenne qui assume d'être en retard par rapport à l'inflation. Hein. C'est explicite de la part de Christine Lagarde. Donc à partir de ce moment-là, on sait que les taux réels vont rester négatifs.
C'est très clair.
Bon, après, ça n'explique pas tout. Il y a des éléments contraires. Une hausse des taux, ça fait aussi baisser le pouvoir d'achat en termes de capacité d'emprunt. Donc tout n'est pas aussi simple. Mais en tout cas, d'un point de vue théorique, au niveau macroéconomique, quand j'ai de l'inflation qui est supérieure à mon taux d'emprunt, je suis en taux réel négatif, c'est plutôt un catalyseur haussier historiquement. Toute chose égale par ailleurs, c'est le toute chose égale par ailleurs qui compte ici. Donc après, il y a...
Mais la tendance avait été déjà inversée, puisque depuis le resserrement du HCSF au début janvier 2022, et déjà en 2021 on l'avait constaté, la tendance à restreindre en fait l'octroi des crédits, elle était réelle au niveau des banques, sans une inflation telle qu'on l'a constatée aujourd'hui. On est avant la guerre d'Ukraine, et donc du coup forcément on voit bien que les banques avaient durci leurs conditions.
Ouais, sur des conditions qui ne sont pas liées au taux, hein, qui sont liées au taux d'effort et au niveau d'apport.
Et l'endettement, c'est favorable.
Oui. Alors justement, voilà, on enchaîne sur les éléments. Alors vous doutez bien que nos auditeurs qui nous suivent chaque mois sont très attentifs aux conseils que vous leur donnez. Alors, je vais vous poser la question, mais je suis sûr que cette question, on vous la pose dès que vous dînez avec des amis. C'est quoi les villes aujourd'hui qui offrent, selon vous, les plus belles opportunités, rendements, avec le risque, bien sûr, de la vacance locative, parce qu'il n'y a pas que, c'est pas que du top. Il n'y a pas que du top en investissement locatif. Il y a un risque de vacance qui est fort, dans certaines régions plus que d'autres, clairement. Ouais. Selon vous, quelles sont les villes aujourd'hui où il est bankable d'investir ?
L'erreur, c'est d'être attiré par les sirènes du rendement uniquement. Je rappelle qu'un rendement élevé veut dire un prix bas, hein, puisque les loyers ne sont pas la grande variable. Les loyers sont assez stables, à peu de choses près. C'est surtout les prix qui varient dans l'indice qui expliquent le rendement. Donc à partir du moment où j'ai un rendement élevé, c'est parce que j'ai un prix bas. Si j'ai un prix bas, c'est qu'a priori la ville n'est pas très attractive, sinon les prix seraient plus élevés. Donc grosso modo, si j'ai un rendement élevé, c'est que je suis dans une zone pas hyper sexy. Du coup, faire attention à ça. Il y a quelques villes qui trompent un peu les statistiques, qui ont à la fois un rendement élevé, un prix bas, mais pour des raisons qui ne s'expliquent pas, parce que le revenu médian reste élevé. Donc l'idéal, c'est
absolument
d'avoir des villes qui ont une population solvable avec des revenus médians élevés, une tension locative forte, des prix bas. Et voilà. Et ces villes, il n'y en a pas 30 000. Je pense notamment à une ville qu'on ne connaît pas trop, qui s'appelle Thionville, sur la frontière luxembourgeoise.
Tu sais, on connaît très bien.
Ouais, que près de Metz, où le revenu médian par habitant est hyper élevé. Pour ce genre de ville, on est à 27 000 euros par ménage en médian. Et la tension locative est maximale parce qu'on a toute la demande transfrontalière. Et pour une raison que je ne m'explique pas, les prix restent hyper stables. À Thionville, on est à moins de 2000 euros du mètre carré. Voilà. Donc typiquement, c'est un exemple de ville qui coche toutes les cases. Mm-hmm. Alors, avant de se lancer, il faut mettre...
Est-ce que vous auriez un deuxième exemple juste
pour qu'on puisse comparer? J'avais publié un classement.
Quelques exemples, ça, là.
Ouais, Thionville, Épernay, pareil, parce que toute la population est embauchée par LVMH, grosso modo. Donc, pour une raison assez étrange, les prix restent à 1700 du mètre.
À Épernay.
Épernay.
On est à côté de Reims.
Exactement, ouais.
Reims, on est plutôt entre 4 et 5 000.
Reims, le marché a été assez arbitré parce que c'est une grande ville, mais Épernay, c'est une niche de, je sais plus combien d'habitants, mais je sais qu'il y en a entre 30 et 40 000, donc ça reste une ville assez liquide. Il y a un gros rendement, on est à 7,2, 1700 du mètre, donc ville abordable, population très solvable, grosse tension locative, il suffit de tester une annonce sur le bon coin et on se fait harceler d'appels. Ça, c'est un réflexe à avoir avant de se lancer dans une ville. Tester le marché. Nous, chez Maceos, on a accès à de la data en interne, mais pour le particulier, il suffit de mettre une annonce sur le bon coin et vérifier si ça prend, quoi.
Tout à fait.
Par ailleurs, oui, il y a Niort, Valence et Châlons-en-Champagne qu'on avait repérées comme des anomalies statistiques où, pareil, on a grosse tension, gros rendement. En fait, c'est des villes qui ont à la fois un rendement élevé et un risque très faible. Et ce risque, c'est pas de vacances et grosse tension.
Il n'y a pas de ville. Il n'y a pas de ville autour de grandes métropoles dans votre démonstration.
C'est vrai que c'est
autour de Bordeaux,
c'est
autour
des villes
de Lyon.
Un peu niche. C'est des villes un peu niche. J'avais fait un deuxième classement justement pour les villes un peu plus établies. On a Orléans qui a des super statistiques. 2500 du mètre, 5,5, énorme demande locative. Et j'avais mis en numéro 2 Caen. Et Marseille qui est dans le top 5. Marseille, le train commence à passer.
Il y a peut-être des villes du Grand Paris aussi, où ça n'a pas monté encore.
Le thème du Grand Paris, il a été pas mal exploité déjà. Moi, je pense que Marseille, la fenêtre de tir n'est pas fermée sur Marseille. Nous, on observe des flux monstrueux sur la
vous
ville.
Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, vous qui suivez tous ces indicateurs même.
Oui, alors on n'est pas tout à fait sur la même problématique pour le neuf, puisqu'on est de toute façon sur des zones tendues. Hein. Le Pinel, aujourd'hui, c'est moins de 6% du territoire. Donc,
sans forcément parler du Pinel, sans forcément parler du Pinel,
La profondeur, la pérennité du marché locatif, c'est essentiel. C'est un investissement locatif. Si derrière, vous n'êtes pas garantie d'avoir des revenus réguliers, stables et une vraie demande locative, vous prenez clairement un risque et que vous allez traîner pendant de nombreuses années. On est sur un temps long dans l'immobilier. Hein. Faut,
oui, c'est clair.
Faut avoir en tête qu'on ne va pas s'engager pour 2-3 ans. Il faut s'orienter plutôt sur 10-15 ans minimum. Donc,
Mais parce que j'ai vu là dans certaines villes, on a fait quelques dossiers, des villes alentours autour de Bordeaux par exemple qui commencent à prendre de la valeur. Il y a Talence par exemple
qui marche très bien.
Voilà, Talence qui marche très bien. Il y a aussi une ville qui est en train de retrouver des couleurs paradoxalement où il y a une usine Hermès qui se crée, c'est à La Sauve. La Sauve qui est à 20-25 km de Bordeaux.
Ces villes prennent là Pessac, Talence, c'est parce que
Il y a de la contagion géographique de Bordeaux qui a été surexploité. Après ouais, de toute façon, Bordeaux.
C'est des locataires qui sortent de Bordeaux.
C'est plutôt des Parisiens qui arrivent à Bordeaux et qui retrouvent les mêmes prix qu'à Paris et qui acceptent de sortir un peu du centre. On a aussi Cognac qui marche super bien, notamment pour les mêmes raisons qu'Épernay, parce qu'il y a l'industrie du cognac, en fait, qui embauche toute la ville. Et on est sur des prix complètement déprimés. Donc, le marché n'a pas encore rattrapé
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que, fut une époque, les promoteurs ou les constructeurs ou les investisseurs n'allaient pas dans ces villes-là, parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas de profondeur de marché. Mais je prends une autre ville dans laquelle on a des stabilités locatives très intéressantes avec des bonnes rentabilités, c'est la ville de Troyes, par exemple. Mais qui s'explique avec des phénomènes. 60% du parc locatif, c'est du logement social en intramuros. Donc ça garantit aussi les loyers pour les investisseurs.
Ouais, 3 c'est pas mal. Parfois il y a une demande locative qui est là pour de mauvaises raisons. Je pense à des villes comme Maubeuge, par exemple.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, il y a une énorme tension locative. Parce que les gens ne peuvent pas être propriétaires. C'est triste, mais les villes plutôt pauvres, les gens n'ont pas les dossiers bancaires pour accéder à la propriété. Du coup, ils sont locataires par défaut et non par choix. Et il y a une grosse demande de locataires qui ne sont pas solvables. C'est pour ça que la tension locative en elle-même ne suffit pas. Il faut aussi vérifier la solvabilité des ménages locaux.
Bien sûr.
Ça, c'est un chiffre qu'on trouve sur Meilleurs Agents.
Vous avez déjà donné plein d'éléments sur les indicateurs. Donc, je vais un peu recouper ma question que j'avais préparée, parce que vous avez déjà donné. Mais si on doit donner un conseil comme ça et un ou deux conseils à un investisseur locatif qui veut se lancer, il a regardé tous les indicateurs que vous avez vus. Le premier conseil que vous donnez.
Tester le marché.
Ça veut dire quoi, tester le marché?
C'est une technique un peu borderline, mais cette fameuse annonce à mettre sur le bon coin pour
mais
voir
ça,
si
quoi,
ça
une
prend.
Fausse annonce.
Ouais, une vraie fausse annonce.
Ah, c'est borderline. C'est...
Bon, faut le connaître le marché aussi. Enfin,
les amis, soyez sympas. Voilà.
C'est pas illégal.
On va dire, ne le faites pas.
Je veux dire, après, il y a des. Nous, on peut publier des classements avec nos datas sur les villes qui ont de la demande, etc. Il y a aussi un indicateur sur Google qu'on trouve qui s'appelle le tensiomètre locatif d'une société qui s'appelle Log Service, que je trouve très fiable. Mm-hmm. Donc, on peut aller sur le tensiomètre locatif, vérifier le niveau de tension dans la ville. Et c'est vraiment le critère numéro un.
D'accord. Un conseil complémentaire ?
Conseil de base, l'emplacement déjà.
Ouais. L'emplacement.
Attention au choix de l'emplacement. L'emplacement pour moi, ça reste la règle numéro un.
Hein. Ouais, quand vous dites emplacement, proche des services, proche de la mobilité.
On n'investit pas dans une ville qui est trop loin de chez nous, j'imagine. Et parce que j'imagine que vous avez de plus en plus d'investisseurs aussi qui investissent à des 400-500 km de chez eux.
La moyenne en France, c'est 25
km. Ça me donne envie d'investir à Épinay, à Épernay.
25 km.
Les Français, en moyenne, ils investissent dans le locatif à 25 km de chez eux.
Donc, ils sont sérieux. Donc, ils connaissent le.
Mais c'est peut-être parce que mon secteur n'est pas encore très représenté, mais chez nous, les clients investissent à 250 km, donc c'est 10 fois plus que la moyenne française.
Pareil,
il y a de tout, honnêtement. Il y a l'investisseur qui veut absolument, qui est persuadé de bien connaître son marché et qui veut absolument bien sur sa commune, ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que du coup, on ne va pas diversifier ses emplacements immobiliers. Hein, si jamais vous avez une crise du principal employeur local, on parle beaucoup d'Airbus à Toulouse, mais si jamais demain il y a une crise mondiale de l'aéronautique, on a un nouveau mode de transport, on ne veut plus prendre l'avion parce que ça pollue trop, c'est l'effondrement de l'aéro et que va-t-il se passer à Toulouse ? Bonne question. Donc c'est plutôt bien, à mon sens, de diversifier un petit peu les emplacements géographiques. Deuxième critère, on a parlé de tout ce qui est profondeur, etc. Essentiel, c'est de bien acheter. Faire attention au prix d'achat. Dans votre rendement immobilier, vous avez le rendement locatif et le rendement du capital. Et quand on fait des simulations de TRI et de taux de rendement interne d'une opération d'investissement immobilier, on se rend compte que l'effet de levier est maximum si vous faites une plus-value à la sortie. Donc si vous achetez mal, c'est-à-dire trop cher par rapport au marché, forcément votre optimisation de TRI est largement compromise. Et malheureusement, vous aurez une opération qui ne sera pas forcément une bonne affaire quand vous sortirez de votre investissement.
Moi, j'ai acheté deux studios à Talence,
très bien.
À côté de la cité universitaire. Donc, je pense qu'on a fait une bonne opération.
Je valide.
Et les prix sont pas élevés, quand même. Sont pas donnés non plus. C'est des variations intéressantes. Mais voilà, il faut encourager aussi les investisseurs à aller dans le marché locatif privé parce qu'on a besoin de logements dans ce pays. Parce qu'au-delà de tout ça, bien évidemment, on loge aussi les
avant
personnes.
Avant de passer au repos... Au...
Alors, meublé, non meublé, oui,
oui,
Guillaume.
Où tu veux, oui, je voulais juste... Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, parce qu'on ne va pas s'en sortir, mais quand on investit aussi dans l'ancien, on se pose la question, meublé, pas meublé. Maintenant, on nous parle du louer abordable, un nouveau dispositif.
Le de Normandie.
C'est quoi comment vous nous guidez là-dessus comment on se pose la question c'est quoi les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans un choix de régime.
Alors je vais compléter la question de Guillaume. C'est vrai que le gouvernement, les lois successives proposent des modèles pour flécher l'investissement sur des zones où il y en a besoin. Voilà. Et souvent, nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, oui, bon, justement, on est là pour en discuter, c'est justement nous dire, voilà, le problème, c'est quelles sont les clés de lisibilité, vous voyez. Et je suis sûr qu'aux clients, vous posent la même question. Comment on peut lire le marché avec tous ces
vous
dispositifs
allez dire, maintenant, tous nos
on
clients, ils vont
voilà,
meubler,
ça a l'air de s'empiler, enfin, bref, neuf, ancien, voilà.
Bah, moi, j'ai pas l'avantage du neuf qui offre quand même une vraie défiscalisation.
Alors on parle de l'ancien. Là.
Mais pour l'ancien, on peut à minima écraser le revenu fiscal locatif avec le mécanisme de l'amortissement. Il y a deux régimes qui nous offrent cette possibilité d'amortir et donc de venir écraser le résultat. C'est le LMNP option réelle.
LMNP, c'est
location non meublée professionnelle. C'est le régime le plus choisi parce qu'il nous fiscalise très très peu sur les revenus locatifs et relativement peu à la sortie, à la revente. Et il y a un deuxième véhicule qui marche très bien, qui est la SCI
sous les
alias. Qui est un nouveau véhicule, un mix hybride un peu entre
donc là, il faut se faire conseiller un petit peu.
Un
là,
véhicule
hein.
Civil.
Bah, c'est le choix que j'ai fait pour.
Voilà, je vous ai conseillé. Soit LMNP, soit SCI alias.
C'est le choix que j'ai fait. Et alors, l'avantage, si je peux me permettre de compléter, l'avantage de la SCI soumise à l'IS, c'est qu'elle n'entre pas dans les ratios d'endettement bancaire.
Ça, c'est à débattre, parce qu'il y a quand même, c'est quand même pris en compte, sinon on serait en illimité.
Oui, bah, évidemment.
Mais oui, ouais, je ne suis pas tout
mais
à fait
d'accord. Mais dans ici, mise à l'US, la sortie, quand même, il y a une fiscalité.
Elle est un peu plus dure qu'en LMNP, parce qu'en LMNP, il n'y a pas ce qu'on appelle la reprise des amortissements. Donc en SCI à l'IS, que j'ai amorti d'un côté, ce qui m'a permis de ne pas payer d'impôts sur mes revenus locatifs, je suis rattrapé à la sortie. Donc ça, c'est récupéré dans le calcul de la plus-value.
C'est quoi l'avantage de la SCI à l'IS ? C'est pour vraiment un néophyte que je n'ai pas compris.
La SCI à l'IS. Ça permet vraiment d'avoir de la stabilité sur la fiscalité. Par exemple, le LMNP option réelle, je peux amortir. Donc j'écrase mon revenu. Je prends mon immeuble, je divise, il vaut tant. Sur 30 ans, ça me permet d'amortir sa valeur divisée par 30. Pareil pour les travaux, pareil pour les meubles. Donc j'ai plein de matières déductibles grâce à l'amortissement.
D'accord.
Mais une fois que j'ai épuisé cette matière déductible, je suis taxé au taux marginal d'imposition qui, lui, est progressif et peut devenir assez violent. Donc ça fait de belles années, 5, 6, 7 ans, et ensuite je me prends le TMI. Alors qu'en SCI LIS, le taux, il reste relativement
constant.
Constant à 15% en l'occurrence.
Je suis pas imposé selon mon taux.
Voilà, donc pour ceux qui ont des TMI...
Je monte une société, en fait.
Exactement. Je monte une société, donc avec un associé.
Avec un associé.
Et je peux déployer...
Donc soumis à l'impôt sur les sociétés.
Soumis à l'impôt sur les sociétés, d'accord.
Absolument. Je peux commencer à contracter de la dette pour acheter de l'immobilier et amortir. Donc, et quand j'ai épuisé mon amortissement, la matière déductible qui me permet d'écraser mon revenu fiscal, le peu qui me reste, il est taxé à un taux assez ridicule de 15%. Alors, il monte à 30-33 si des seuils sont dépassés, mais ces seuils sont quand même assez élevés. Donc, pour le commun des mortels, on peut considérer qu'une SCI LIS nous laisse à 15% ad vitam aeternam. Et c'est pour du portage locatif long terme, sans intention de revente à court terme. Parce que c'est vrai qu'à la revente, il y a cette fameuse reprise. Donc, pour faire très simple, nous, on vend 150 appartements par mois et il y en a la moitié en LMNP option réelle et l'autre moitié en SCI LIS. Et les loués abordables, c'est comme ça qu'on dit. Hein.
Ouais,
et de Normandie, j'ai abordé le sujet un petit peu avec certains clients. C'est des régimes qui ont été peut-être un peu mal construits, qui sont très durs à exploiter parce qu'il y a beaucoup de critères. Et en fait, on s'y retrouve pas financièrement. Notamment, le loué abordable, il part de loyers qui sont pas des loyers de marché.
Il faut imposer un loyer en dessous du marché.
Mais le marché, hein, parce qu'on mentionne souvent le marché, il faut acheter sous le marché. Qu'est-ce que c'est le marché? C'est meilleures agences, c'est quoi? Bon, pour l'État, le marché, il est un peu plus bas que le vrai marché. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne pas, ces régimes-là.
Voilà, faut juste rappeler en complément qu'une SCI, vous pouvez monter à partir de deux associés. Ça peut être monsieur et madame. Et choisir l'amortissement, effectivement, c'est une solution intéressante et qui coûte pas très cher à constituer. Donc, c'est une bonne recommandation. Alors, on est allé au contact, on vous l'a dit tout à l'heure, des Français. On leur a posé, vous savez, en mode micro-trottoir, on est allé dans la rue, on a posé la question, une question simple. Pour vous, est-ce que l'immobilier est toujours un placement ou pensez-vous qu'il est un placement sûr? On a envoyé une autre super reportage avec Bérénice Deville, un micro-trottoir qui n'est pas en image mais qui est en son, et je vous propose de l'écouter, on réagit tout de suite après.
Bonjour madame.
Bonjour.
Est-ce que pour vous, l'immobilier est un placement sûr?
Oh que oui.
Pourquoi?
Bah parce qu'en fait, c'est le futur, c'est...
C'est la pierre.
Exactement.
Pourquoi? Parce que comme ça, on possède le bien, on peut le louer,
on
y habiter.
On possède et on fait ce qu'on veut.
D'accord.
Voilà.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Est-ce que pour vous, l'immobilier est un placement sûr?
Alors oui. Dans le temps, oui. Ça dépend après où. Après, faut bien faire ses choix. Pour choisir du coup un quartier qui va grandir et que du coup le salaire mensuel de l'appartement va grandir aussi. Mais après il y a plein de trucs dans l'immobilier qui, comme des viagers ou des choses comme ça, qui permettent de rentabiliser les appartements. Mais ce qui est bénéfique, c'est de pas de mettre tout son argent dans l'immobilier, mais un peu partout.
Et diversifier.
Voilà, diversifier, pas mettre tout son argent dans une seule chose, donc l'immobilier. Mais c'est rentable, hein, ça fait des années que c'est rentable et ça le restera.
La pierre est un placement sûr, donc.
Voilà, tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonjour madame. Pour vous, l'immobilier représente-t-il un placement sûr?
Bonjour. Alors, je pense que ça dépend beaucoup de la région. Mais dans mon esprit, ça reste un placement relativement sûr. Pas toujours pour faire des rendements, mais en tout cas un placement sûr.
D'accord. C'est un placement qu'on connaît depuis longtemps et du coup qui a déjà fait ses preuves.
Exactement.
Bonjour mademoiselle.
Bonjour.
Pour vous, est-ce que l'immobilier représente un placement sûr?
Alors oui, c'est un placement sûr, sauf dans des villes comme Paris, où je pense que le marché est tellement instable et les biens sont tellement volatiles que je ne suis pas certaine que ça soit une très bonne idée. Mais acheter un appartement plutôt que de laisser son argent dormir, oui, ça me semble plutôt sûr.
Donc ça vous intéresserait, vous, par exemple, plutôt dans d'autres villes que Paris, en tout cas?
Oui, absolument. Enfin, moi, j'ai déjà acheté un appartement à Marseille pour cette même raison et j'achèterai pas ma résidence principale à Paris, pour le coup.
D'accord, et du coup, c'est un appartement que vous avez mis en location?
C'est ça, exactement. C'est un appartement que j'ai acheté, que j'ai retapé en entier et que du coup, j'ai remis en location. C'est un premier investissement locatif. Quand on a moins de 30 ans, je pense que c'est le moment d'y penser.
Et du coup, vous êtes plutôt qu'au placement financier, vous êtes directement intéressé à l'immobilier pour un premier investissement?
Ouais, parce que je pense que c'est important de se constituer du patrimoine là où, en général, nous, on n'en a pas forcément. Enfin, moi, j'ai pas de patrimoine familial, donc je pense que c'est bon moment pour commencer à en constituer, s'assurer quand même une retraite un peu paisible.
Bonjour madame.
Bonjour.
Est-ce que pour vous l'immobilier est un placement sûr?
Oui. Ah oui, j'en suis convaincue à 200%. J'en ai moi-même acheté pour du placement à long terme. Sur du locatif, ça reste super.
Dans Paris ou à l'extérieur?
En banlieue.
En banlieue. Mmh. Et du coup, il y a des locataires qui vous payent...
Il y a plus de rentabilité. Exactement, ouais. Un locataire paye
qui vous paye un loyer, qui rembourse votre crédit ou pas.
Exactement.
Ça marche. Super, merci beaucoup.
Alors, c'est sans appel, hein? C'est sans appel. Mais ça corrobore toutes les études que nous menons, effectivement, et chez Capital aussi d'ailleurs. L'immobilier reste un placement sûr. Réaction.
Dans l'esprit des Français, en tout cas.
Réaction, M. Vignot.
Oui, il y a des choses intéressantes qui ont été prononcées. On a parlé de futur, on a parlé de retraite, de patrimoine. Effectivement, aujourd'hui, si vous regardez bien, l'immobilier, c'est le seul type d'investissement qui vous permet de vous constituer un patrimoine en bénéficiant de l'effet de levier du crédit.
C'est de l'épargne inversée.
Allez
quoi.
Voir votre
en
banquier.
En fait, on vous prête de l'argent pour l'épargner.
Exactement. Allez voir votre banquier pour acheter 200 000 euros d'actions, il va vous rire au nez. Alors que l'immobilier, effectivement, vous allez pouvoir bénéficier, avec un petit peu d'apport aujourd'hui, hein, plus qu'en tout cas il y a quelques mois. Mais en tout cas, ça vous permet de mettre un petit peu le pied dans ce train de l'immobilier qui a tendance, cette marche a tendance à s'élever de plus en plus. Là, ça vous permet de mettre le pied dans le train, effectivement, après, peut-être pour plus tard, pour être propriétaire occupant ou tout simplement pour préparer votre retraite. Mmh.
Réaction?
Ouais, non, c'est vrai, on parle assez peu de l'effet de levier, mais c'est pas notre argent, c'est la banque qui finance le bien, le locataire qui rembourse la banque. Et sûr par rapport à quoi? Donc par rapport à d'autres classes d'actifs, il y en a pas 30 000 accessibles aux Français, hein. J'ai mentionné les cryptos qui, c'est plus pour s'amuser que pour un vrai investissement pour préparer sa retraite. Les actions en bourse, c'est pas trop dans la culture française. On a une vraie culture de la pierre depuis De Gaulle. Moi qui fais de l'immobilier en Europe, le marché français, c'est 30% du marché européen, hein, le locatif. Sur 10 investissements locatifs faits par des Européens, 3 sont faits par des Français. Oui, donc on a une culture de la pierre qui est fascinante parce qu'on a un levier bancaire très accessible. Nous, quand on va vendre à des Espagnols chez Mastéos, ils ont 40% d'apport à mettre. En Italie, c'est pareil. En Grèce, c'est pareil. Au Portugal aussi. Mmh. Nous, on a les frais de notaire. Jusqu'à récemment, jusqu'au HCSF, on avait du zéro apport. Moi, j'ai acheté à Marseille il n'y a pas très longtemps avec
maintenant,
zéro apport.
Maintenant, c'est frais notaire, boire un peu plus.
Hein. Et ça nous paraît incroyable, mais en vrai, on part de très loin. Et ce levier bancaire qui est une grande grande spécificité française fait qu'on a un vrai attrait pour la
Est-ce
pierre.
Est-ce que vous attribuez la réussite, et c'est important pour nous, ceux qui nous écoutent, de l'investissement par rapport à la structure bancaire qu'elle existe en France? C'est-à-dire que le fait que ce soit un système hypothécaire dans lequel il y a une sanctuarisation des taux qui sont fixes. Sur des taux longs, et qu'on n'est pas dans le système des mortgages anglo-saxons dans lequel on a une variation, et on l'a vu d'ailleurs avec les subprimes, où le retour peut être extrêmement violent.
C'est surtout la variabilité des taux dans ce que vous dites qui nous protège des grosses crises à l'américaine, à l'espagnole. Ouais, c'était très français. Par exemple, l'Espagne, jusqu'à 2008, ils étaient à taux variable à 95%.
Ah, absolument.
Et les taux ont monté et ça les a asphyxiés.
Mais ça les a tués. Ça les a tués.
J'ai parlé à des Espagnols, leur mensualité, ils nous racontaient, elle a doublé en quelques mois.
Et les anglo-saxons, pareil.
Ils se font saisir les biens, les banques n'ont pas vocation à le garder, donc ils revendent en masse, le marché s'effondre 40% en Espagne.
Euribor, avec des indexations, c'est le.
Et le fait d'être à taux fixe, ça fait que dans cet environnement actuel où les taux remontent, ça n'affecte pas les gens qui ont déjà emprunté. Et donc alors, ça ne crée pas de krach immobilier, c'est pour ça que la pierre en France est relativement
alors
sûre.
Alors complément de question, la structure du droit de propriété, parce que c'est la France qui a inventé le droit de propriété, hein, je le rappelle, fait que le fait qu'on ait un système hypothécaire, mais aussi qu'on ait des cautions garanties, est-ce que ça stabilise le marché? Est-ce que ça facilite en fait l'accès à la propriété pour les Français? Quand on compare avec les anglo-saxons ou autres. Le fait, par exemple, que les anglo-saxons utilisent énormément l'hypothèque pour prêter, et qu'en France, on est plutôt sur, par exemple, un remplacement d'hypothèque sur des cautions garanties dans lesquelles la notion de revenu est plus importante. Est-ce que ça a une incidence ou pas?
C'est vrai qu'en France, l'emprunt est basé sur le revenu de l'emprunteur, alors que dans les pays anglo-saxons,
États-Unis, en Angleterre,
basé sur la valeur du bien lui-même.
D'ailleurs, avec tous les travers qu'on a connus.
Voilà, c'est effectivement un point, mais je pense vraiment que ce qui nous protège de grandes crises, c'est la fixité des taux.
La fixité
et leur côté bas qu'assure Christine Lagarde à la BCE. Il y a que le Portugal qu'on a vu en taux variable encore actuellement où je me fais un peu de soucis, mais tant qu'on est à taux fixe, on est assez hermétique aux crises. C'est pour ça que ça reste un placement relativement sûr en France en tout cas.
Merci pour ces précieux conseils dont je ne doute pas un instant que nos auditeurs vont utiliser. Vous restez avec nous si vous voulez bien. À suivre, la première partie de Ça vous concerne, les bons conseils aussi pour compléter l'information qui vous amène sur ce fameux parcours résidentiel. Encore une fois, la messe est dite, investir, c'est toujours aussi bankable dans l'immobilier. À tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie.
C'est bien ici.
Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail.
C'est bien ici.
Et il adore nager.
C'est bien ici.
C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
Et c'est bien ici.
Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
Trouble in your brain, anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need a hero, go for it, I will teach you how to feel the things so close to you, connect it all. Every day is a miracle, connect back with the people.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Voilà, ça vous concerne, c'est la séquence que vous préférez, les amis. La raison, elle est simple, c'est que vous postez chaque mois sur le club des propriétaires, qui est la page Facebook gérée par nos amis de Capital, et c'est l'ami Vince, Vincent, voilà, les bons tuyaux.
Ça fait longtemps qu'on m'avait pas appelé Vince.
Vous vous rappelez pas, ça, hein, il y avait un truc qui s'appelait Huggy les bons tuyaux. Quand même.
J'ai un poil de culture générale.
Un peu de culture, voilà. Nous, les bons tuyaux, c'est Vincent Favreau. Et on pose une question, alors, on va pas, c'est presque un anniversaire, quelque quelque part. Parce que je rappelle que notre expert, qui s'appelle Emmanuel Lefebvre, qui est une avocate spécialisée dans la copropriété. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous étiez avec nous pour le premier numéro. Il y a 39 numéros de cela.
Oui, voilà. Exactement.
Ça fait 5 piges. Voilà. Ça ne nous rajeunit pas.
On n'a pas changé.
Vous êtes super.
On n'a pas changé.
Vous êtes magnifique.
Merci, c'est gentil.
Ça nous fait extrêmement plaisir. Nous sommes très émus de vous avoir sur le plateau. Une petite larme sera versée par Guillaume, d'ailleurs. D'émotion.
Moi, à la fin de l'émission.
À la fin de l'émission. Moi, j'ai une petite question, si vous voulez, pour Emmanuel. Donc, avocate spécialiste de la CoPro, on l'a dit. Le ravalement de la résidence de Claudine, qui nous envoie la question, a été voté l'an passé en AG et une entreprise a naturellement été choisie par la copropriété pour le chantier. Il s'avère que les travaux sont effectués par des sous-traitants. Est-ce que c'est légal, nous demande Claudine ?
Alors, il faut savoir que la sous-traitance, elle est régie par une loi, la loi du 31 décembre 1975, et qui a un principe essentiel pour la sous-traitance, à savoir que l'entreprise générale doit absolument faire accepter le sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement. À partir du moment où ce n'est pas fait, effectivement, ça pose une difficulté. Pourquoi ? Parce que le maître d'ouvrage doit déjà pouvoir être au courant. Il doit d'ailleurs même pouvoir demander la copie du contrat de sous-traitance et il doit pouvoir s'assurer qu'il y a bien une délégation de paiement qui a été donnée ou une caution financière qui soit donnée. Pourquoi ? Parce que justement pour éviter que le sous-traitant qui fait des travaux ne soit pas finalement payé à partir du moment où le syndicat des copropriétaires a payé l'entreprise générale, mais l'entreprise générale entre-temps ne repaye pas son sous-traitant. Donc il faut absolument dans ce cadre-là que le conseil syndical ou le syndic, lorsqu'ils sont informés de ça, mettent en demeure l'entreprise générale de justement avoir les informations sur ce sous-traitant. Et en plus, il faut savoir quand même qu'il y a une sanction et qu'on a vu des décisions justement qui ont été rendues à ce sujet, à savoir qu'un sous-traitant peut attaquer le maître d'ouvrage, donc en l'espèce le syndicat des copropriétaires, d'une perte de chance d'avoir été justement réglé en bonne et due forme de ses travaux, à partir du moment où le maître de l'ouvrage a l'obligation, lorsqu'il a connaissance justement de ce sous-traitant, eh bien de se renseigner et de demander à ce qu'il soit agréé et qu'il ait ses, voilà, ses garanties financières pour qu'il n'y ait pas de difficultés. Donc j'oserais dire qu'absolument pour Claudine, s'il y a ça, il faut qu'elle fasse remonter l'information au niveau du syndic pour que le syndic fasse cette mise en demeure et ne mette pas, si vous voulez, en danger le syndicat des copropriétaires.
Il y avait Claudine à la plage. Claudine à l'école, maintenant il y a Claudine au barreau de Paris parce que pour aller au tribunal. Non, non, mais ce que vous dites est très juste. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une défaillance du sous-traitant dans les travaux. C'est-à-dire que vous avez payé X et qui a sous-traité le marché dans les conditions et où il y a une défaillance, qu'on comptait les retards ou des personnes qui ne viennent pas sur le chantier. Gros mal de tête pour le syndicat des copropriétaires. C'est marrant comme ça nous parle, ce genre de situation.
Exactement.
Et puis pour se prémunir, il faut vraiment être...
Il faut être extrêmement vigilant pour la sous-traitance.
D'où l'importance que le syndic de copropriété, quel professionnel, nous aide le conseil syndical à faire les bons choix.
Oui, bien choisir justement l'entreprise. Voilà. Et soit vigilant en fait sur l'entreprise qui intervient sur place, parce qu'on peut avoir une difficulté, à savoir que l'entreprise sous-traite, le sous-traitant fait d'ailleurs son travail, entre-temps le syndicat, lui, n'ayant pas connaissance, paye l'entreprise générale,
et
le sous-traitant n'est pas payé, et le sous-traitant vient dire au syndicat et copropriétaire, dites donc qu'il y a une obligation dans le cadre de la loi sous-traitance, j'ai la preuve que vous étiez bien intervenu par le biais, par exemple, des comptes rendus, de visites,
d'ordre.
Les visites de chantier, etc. Vous avez accepté implicitement mon intervention, vous aviez cette obligation de vous assurer que je sois réglé, in fine, pour mes travaux.
Dans une autre vie, présidé un tribunal, j'étais chargé de ce genre d'affaires, je peux vous dire que c'était 9 fois sur 10, c'était le sujet. Condamnation, les conseils syndicaux passaient à la caisse pour payer les sous-traitants, les malheureux sous-traitants qui n'étaient pas payés. Vigilance.
Une autre question pour vous, Emmanuel Lefebvre. C'est Jérôme, il est encore question de syndic. Il vend un studio, Jérôme, qui a trouvé preneur. Le compromis doit être signé en mai. Le syndic a transmis l'état daté pour la somme de 380 euros. Mais il propose une prestation supplémentaire optionnelle appelée le DPV, le dossier promesse de vente. Elle est payante, c'est un montant de 299 euros. Cette prestation supplémentaire a-t-elle vraiment une utilité pour la vente ? C'est ce que nous demande Jérôme.
Alors, en fait, il y a une différence à faire entre l'état daté et ce qu'on a appelé le pré-état daté. Donc, en fait, l'état daté dont on parle, qui d'ailleurs maintenant est plafonné à 380 euros.
Donc, on est au bon prix, là.
Tous les syndics, voilà, ont mis 380 euros.
Oui, ça a fait, d'ailleurs, ça les a fait hurler parce
que. Bah oui, mais c'était plafonné, donc c'était plafonné. Donc, bah, tout le monde a pris le plafond. Bah, donc, 380 euros. Là, il est obligatoire. Il est obligatoirement établi par le syndic et il est effectué au moment de la régularisation de l'acte authentique de vente, donc à la fin lorsque l'on vend. Là, on est au premier stade dont on parle par rapport à Jérôme, c'est le moment de la promesse ou du compromis de vente. Là, il y a ce qu'on a appelé avant le pré-état daté et c'est justement des informations qui doivent être données à l'acquéreur, à savoir qu'il doit avoir des informations administratives et financières, le règlement de copropriété, les trois derniers PV d'AG, il faut les charges, il faut le carnet d'entretien, il faut savoir s'il y a des impayés, des choses comme ça. Et ça, maintenant, ce n'est plus une obligation que ça soit donné par le syndic. C'est, au final, au vendeur de donner ces informations à l'acquéreur. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, les syndics ne peuvent plus facturer sans un accord de l'acquéreur ces informations. Il faut savoir que maintenant, les vendeurs ont la possibilité, en tant que copropriétaires, d'avoir accès au site extranet des syndics. Donc, ils doivent normalement pouvoir récupérer toutes ces informations et les donner sans passer d'ailleurs par le syndic et sans payer quoi que ce soit pour pouvoir les donner à leurs acquéreurs.
C'est ça ce qu'elle appelle le dossier provisoire.
Voilà, exactement. Mais le principe, il est que bah, c'est assez difficile quand même pour des néophytes, pour certaines choses qui doivent être données, notamment quel est l'état des impayés actuels, le budget sur les trois derniers exercices, des charges qui sont d'ailleurs hors budget ou budgétisées. Enfin, il y a des informations qui peuvent être un peu compliquées. Donc finalement, les syndics disent bah, très bien, nous, on peut vous remplir ces informations et vous donner en fait cette espèce de fichier, parce que généralement, ils le font électroniquement, mais on facture. Donc, on vous envoie un devis. Donc maintenant, c'est toujours un devis. Et ce devis, dans ces cas-là, bah, il faut l'accepter. Si on l'accepte, le vendeur peut donner ses informations à l'acquéreur et le travail a été fait par le syndic. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation de passer par le syndic. Donc, c'est juste un service qu'il propose désormais.
Ça peut être utile.
Voilà. Mmh. Ça peut être utile si on ne sait pas le faire ou qu'on ne sait pas exactement ce qu'on doit donner. Ben, je voudrais dire qu'on sous-traite là pour le coup.
Non, mais c'est vrai. Également, non, mais sur le principe.
Parce que là, il propose 300 euros supplémentaires pour ça. Hein,
oui, mais on tape beaucoup sur les syndics professionnels parfois et des fois c'est injuste et moi je trouve que dans la mesure où il y a une prestation qui est réalisée qu'elle soit monétisée me choque pas du tout.
Ah non, moi
et
non
je pense
plus.
Que payer 300 euros de conseils enfin ou d'honoraires pour avoir des docs qui détermine un achat qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, moi je trouve que c'est un bon investissement.
Bah, surtout, ça dépend des gens. En fait, l'avantage qu'on a maintenant, parce qu'avant c'était un peu différent, c'est-à-dire que c'était automatiquement facturé par les syndics, donc il y a eu justement toute une remontée là-dessus où on a dit, ça ne rentre pas dans les barèmes, vous n'avez pas le droit de le facturer. Donc maintenant c'est optionnel, donc ça veut dire que soit le vendeur finalement, il se débrouille tout seul, et il peut le faire en fait, s'il en a les moyens.
Vous avez un conseil à donner ? Est-ce que c'est mieux de passer par le syndic ? Bah, et de financer cette prestation.
C'est comme tout, en fait. C'est-à-dire que si, par le site extranet, vous pouvez récupérer les informations. Voilà, maintenant,
c'est juste plus
ça
compliqué.
Prend du temps.
Voilà.
C'est un peu compliqué. Et finalement, on se dit, dans le cadre d'un package d'une vente,
l'investisseur personnel qui veut investir, il ne s'emmerde pas.
Voilà,
exactement. Il demande au syndic.
Il demande au syndic, le syndic le fait. Et moi, j'ai vu, par contre, des clients qui m'ont informé qu'il y avait des notaires qui refusaient, en fait, les compromis ou les promesses de vente notariées.
Le prêt-état daté.
Prêt-état effectué. Donc, ce qu'ils n'ont pas le droit normalement de faire pour le coup.
Mais
j'ai eu des clients au final qui sont intervenus en disant oui, mais nous, on veut dégager notre responsabilité là-dessus, puisque effectivement, sinon le notaire se retrouve lui-même à vérifier les informations qui sont données par le vendeur particulier, et il n'a pas envie de ça non plus de prendre cette responsabilité. Donc, j'oserais dire qu'on a créé un nouveau.
Faire de l'immobilier, c'est quand même 5 années d'études supérieures. Depuis un temps, c'était plus simple. Hein. Je l'ai connu, mais là maintenant, faut vraiment, c'est du top niveau. Hein, quand même.
Ouais, surtout qu'il y a beaucoup de réformes.
Ouais, c'est clair.
C'est énorme en ce moment.
Merci beaucoup Emmanuel Lefebvre pour les questions, les conseils et les réponses à nos auditeurs. Donc avocate spécialiste de la copro, on vous retrouve sur blob-avocat.com.
Ça c'est original, voilà. Blob.
Blob comme B comme Bernard, blob-avocat.com.
Voilà, -avocat.com. Voilà, si vous avez besoin d'un bon avocat, une bonne avocate en droit de la copropriété, il n'y a pas photo, il faut aller chez Maître Lefebvre. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci Emmanuel.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
De retour sur le plateau avec nos invités, après avoir vu nos experts qui vous ont donné tous les petits bons plans pour justement monter votre dossier et réaliser vos rêves. Ça, c'est un sujet important. Et nous retrouvons donc nos invités. Thierry Vignal est avec nous, président de Mastéos. Et d'ailleurs, merci d'être avec nous parce que vous avez décalé un voyage en Europe, dans une ville magnifique, pour être avec nous. On vous en remercie. Et merci de vos précieux conseils. Merci également à Franck Vignaud d'être avec nous. Rebonjour, directeur du laboratoire de l'IMO. Vous êtes toujours avec nous. Et quand on dit neuf, on pense quoi ? On pense Pinel, Guillaume.
On pense Pinel. Et je vais m'adresser donc à vous, Franck Vignaud. Oui, alors, les Français ne le savent peut-être pas. À compter de 2023, donc l'an prochain, les taux de réduction qui sont offerts pour le Pinel vont être réduits, sauf à investir dans des logements qui
nécessiteront les nouveaux conflits. Comment on dit Super Pinel,
Pinel Plus.
Oui, Pinel voilà. Plus, Super Pinel. Alors,
pour garder les taux, il faudra avoir des logements qui répondent à des règles de normes nouvelles, voilà. Tant énergétiques que de confort.
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est la dernière année du Pinel classique.
Voilà. Et donc là, on va commencer simple. Les nouvelles règles du jeu, ça sera lesquelles l'année prochaine ?
Alors, je pense qu'il vaut mieux prendre un papier et un crayon pour tout noter parce que c'est un petit peu complexe.
Très, bien, très lentement.
Les amis, voilà, on écoute.
Un papier,
voilà.
Un crayon.
Et on enregistre le podcast.
Il y a une chose qui est commune pour toutes les situations. Il faut que le bien, en fait, réponde à certaines normes dites de confort. Alors, on a échappé au pire parce qu'au départ, c'est parti un petit peu dans tous les sens. On avait des hauteurs sous plafond de 2,80 m, des appartements traversants, etc. Finalement, ces normes de confort sont de trois types. Première norme, les normes de surface habitable. Donc, des normes minimales, des surfaces minimales à respecter. Pour un studio, ce sera 25 mètres carrés. Pour un T2, ce sera 45 mètres carrés. Ce qui est un petit peu grand, mine de rien, parce que dans le 9, on est plutôt sur 42, 43, 44 mètres carrés. Pour un T3, on sera sur 62 mètres carrés. Là, c'est un petit peu la norme. T4, on sera sur 79 mètres carrés. Et le législateur a même prévu des T5, bon, ce qui est quand même assez rare pour du Pinel, où là, on serait sur du 96 mètres carrés minimum. Donc, première norme.
La surface.
Surface habitable. Deuxième norme, des surfaces extérieures. Alors, par surface extérieure, il faut entendre soit un balcon, soit un jardin. Mmh. Il en faut pour un studio. Donc ça, ça risque d'être un petit peu difficile, parce que souvent, le studio, on n'a pas de balcon, rarement un jardin. Donc, le studio, il faudra à minima, le studio et le T2 également, à minima 3 mètres carrés. D'accord. Le T3, 5
mètres carrés d'extérieur.
Hein. D'extérieur.
C'est important.
Ouais,
d'accord.
Ouais. Le T3, on sera 5 mètres carrés. Le T4, 7 mètres carrés. Le T5, 9 mètres carrés. Et il y a une dernière norme. Alors là, c'est une norme de, en termes d'ouverture. C'est-à-dire qu'il faut avoir
double exposition ou triple exposition.
Alors, c'est des expositions, c'est exact. C'est soit une fenêtre, soit une porte-fenêtre. En fait, deux ouvertures sur des façades ayant des expositions différentes.
Traversant ou pas.
Voilà, on a échappé au traversant. Ça aurait pu être forcément traversant.
Le traversant, c'est juste impossible. Hein, je l'ai,
En termes de
promoteurs
d'immeubles, c'est très compliqué.
Au début, il y avait un projet traversant, vous
exactement,
vous rappelez. Ouais. Ça les a fait...
Alors là, ça les a fait bondir.
Ah bah, les promoteurs, on disait, écoutez, c'est simple, on arrête, voilà, terminé.
Bah, ça fait des immeubles moins profonds, donc
mais
moins d'occupation.
Mais surtout qu'en plus, quand on compte la densité et la ZAN, aujourd'hui, qui finalement nous empêche l'étalement foncier.
Et vous faites des immeubles moins larges et des appartements plus hauts, donc vous allez rapidement atteindre la limite de constructibilité, vous pouvez perdre un étage, vous pouvez perdre plusieurs logements par étage.
Deux murs avec deux ouvertures, c'est
absolument.
Ça.
Voilà, alors donc, quand on parle d'exposition, ça peut être par exemple une exposition perpendiculaire, pour faire simple, ça peut être une
double
exposition en angle, c'est ce qu'on appelle une double exposition pour que les Français comprennent.
Hein. Oui, exactement.
C'est à ça qu'on a échappé. Quand je dis traversant, les amis, c'est effectivement d'avoir des fenêtres d'un bout à l'autre de
l'appartement. Nord-sud, ouest-ouest, voilà.
Alors, voilà, exactement.
Et plus à ça, des normes énergétiques.
Alors, les normes énergétiques, là, c'est là que ça se complique un petit peu.
Ah oui, je croyais.
pour le neuf, c'était beaucoup plus simple, du coup.
Pour le neuf, c'était...
Alors, on a moins hurlé. Hein,
alors, on reste dans le neuf, hein, toujours.
Oui, oui, bien sûr, on parle du neuf.
Alors, il y a deux situations. Soit vous êtes dans le périmètre d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, un QPPV ou QPV. Mmh. Alors, si vous êtes dans le périmètre de ce quartier-là, alors peut-être pour rappeler simplement ce que c'est, l'Agence nationale pour la rénovation de l'habitat, l'ANA, a défini un certain nombre de quartiers en France qui bénéficient de subventions pour la rénovation, la restructuration. Mmh. Généralement, en tout cas très souvent, ces quartiers-là correspondent à des quartiers qui ont été construits dans les années 60, fin 70, où on a des grands ensembles sociaux, donc souvent des quartiers un peu compliqués, pour être politiquement correct. Donc si vous êtes dans ce périmètre-là, ou dans une bande périphérique de 300 mètres autour de ce quartier-là, il vous suffira simplement de bénéficier de ces normes dites de confort. Si vous êtes en dehors, alors, deux solutions, deux situations. Tout va dépendre, en fait, de la date de dépôt de permis du logement. Si le permis a été déposé avant le 1er janvier 2022, il suffit donc juste d'avoir la norme de confort et de bénéficier du label E+, C-, et d'un DPE classé A. Alors, je m'explique. Le label E+, C-, E+ pour énergie positive, C- pour réduction de l'empreinte carbone. Alors, pour la partie énergie, vous avez trois niveaux. Énergie 1, énergie 2, énergie 3, énergie 4. Donc, vous devez être classé énergie 3 ou énergie 4. Pour le carbone, c'est indifférent, 1 ou 2. Donc, norme de confort, E+, C- et A. Quelle que soit l'année de dépôt du permis de construire.
Le Valium est fourni à quel moment?
Nous avons des...
Vous expliquez tout ça sur votre site
Non. Il m'a fallu un petit peu de temps pour bien assimiler.
Franchement, bravo, parce que moi, j'ai tout compris.
Et si c'est après le 1er janvier?
Alors, si le permis a été déposé cette année, vous savez, depuis le 1er janvier, il y a une nouvelle norme environnementale, la RE 2020, qui est entrée en vigueur. Donc là, si vous achetez en 2023... Je précise. Ouais. Il vous faut être, donc, norme de confort, de toute façon, c'est à minima, et RE 2020. C'est tout. Okay. C'est simple. En revanche, si vous achetez en 2024, c'est norme de confort RE 2020 et DPE A. Voilà, d'accord. C'est la petite subtilité.
En même temps, s'y prépare. Bon courage. Merci pour tout ça.
Moi, je lance un appel à nos amis européens. Venez en France. C'est très simple. Alors, c'est là que vous comprenez. C'est là que vous comprenez en fait plus sérieusement que les acteurs de la ville, à un moment donné, fatiguent. Parce que ça s'appelle de l'inflation normative quand même, à un moment donné,
il faut un peu se calmer.
Et ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai pas rebondi dessus, mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sur l'immobilier à la française. C'est vrai qu'on a un président de la République qui n'aime pas l'immobilier, qui l'a dit, et qui dit que c'est de la rente de situation, etc. Sauf qu'au même moment, le nombre de permis de construire, je le disais tout à l'heure, il était 391 000 en 1982. Il est le même aujourd'hui, en 2022. Il y a 15 millions de Français supplémentaires. Juste la question, c'est comment on fait pour léger les Français. Et ça suffit à calmer le jeu. Alors, donc 6 mois pour les particuliers, pour le Pinel, avec tous les éléments. On a tous les éléments sur votre site, je suppose.
Sur toute la partie zonage, notamment les plafonds de loyer, zonage, etc. Parce que là, on complexifie encore après.
Hein. Voilà.
C'est pour
ça que, voilà.
Non, un des conseils... Ce qu'on posait la question, c'est avant, pour échapper à toutes ces règles, il faut investir maintenant. Et voilà. C'est ça la question, s'il vous plaît.
Ça vaut la peine de faire une émission avec Guillaume Chazouillère, parce qu'il a ce don incroyable pour simplifier les choses. Mais enfin, on peut avoir toutes les informations sur le site. Même question que j'ai posée au président de Mastéos, justement, c'est de dire... quelles sont les villes? Parce que le problème, vous l'aviez dit tout à l'heure de façon sibylline, les choix d'investissement pour le neuf sont quand même majeurs dans certaines villes. Il faut reconnaître qu'il y a eu des investissements neufs dans des villes dans lesquelles ça a un peu ramé en vacances locatives et en profondeur de marché. Quelles sont, selon vous, les villes où ça vaut la peine aujourd'hui d'investir?
Il y a des programmes pour justement pas avoir
du produit, c'est pour investir. C'est la difficulté aujourd'hui, effectivement, c'est de trouver du logement neuf.
On trouve, oui, c'est
vrai. Vous parlez d'autorisations qui reviennent au niveau d'il y a quelques années, mais en fait, le marché de l'immobilier aujourd'hui, du neuf en tout cas, est surtout tiré par la production de maisons individuelles. On a des niveaux de production, d'autorisation de permis de construire pour des maisons qui sont quasiment équivalents à ceux qu'on avait au début des années 2010. Effet post-confinement. En plus, il y a une anticipation de la RE 2020 aussi qui a un très fort impact sur les maisons. Il y a beaucoup de permis qui ont été déposés à la fin de l'année 2021. Donc on a un afflux de permis.
Tant mieux pour eux parce qu'ils ont eu quelques années très dures ces dernières années.
On est encore loin des années 2000, parce que le marché a été divisé par deux en 10 ans. Alors c'est assez difficile. Premier conseil, peut-être éviter aujourd'hui les cœurs de grosses métropoles, très clairement.
Pourquoi ?
Parce qu'on est très cher. Il y a très peu de fonciers, on a des prix qui dépassent les 6 000, 7 000 euros très, très, très facilement.
Mais quand vous dites quoi, Toulouse ?
Alors, Toulouse, on peut y arriver encore. Je vous donnerai un exemple. On peut prendre Toulouse, par exemple. Aujourd'hui, vous avez un nouveau secteur, un nouveau territoire qui se développe à Toulouse, c'est la ZAC Malpère.
Oui.
Donc là, on est au sud-est. C'est vraiment le gros quartier qui va se développer.
Un quartier émergent.
Voilà, on aura 6 500 logements à terme. Donc, d'ici 2028, donc on est quand même là sur... même 38, pardon. On est
là,
sur
on
du très long terme. Il y a déjà des programmes. On est sur des prix qui sont, somme toute, assez raisonnables pour Toulouse. On est à 4 700 euros pour les dernières opérations qui ont été lancées. C'est un petit peu en dessous de la moyenne toulousaine.
On est sur intramuros, là ?
On est encore intramuros.
On est encore intramuros.
On est dans Toulouse intramuros. D'accord. Donc c'est l'avantage, on est sur une grosse métropole.
Donc quartier Malpère. Hein.
Quartier Malpère, voilà. Malpère, alors ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop les ZAC, mais là l'avantage c'est que ça va vraiment se faire sur le long terme.
Il y aura du locatif quoi.
Il y aura du locatif, il y aura de la cession. On a le métro, la future ligne 3 qui sera à 1 km à peu près du centre de la ZAC. C'est une adresse toulousaine malgré tout.
Ça, c'est un super bon plan. Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. À l'horizon de quelle année vous dites?
Alors là, il y a déjà des opérations et fin de la ZAC. Donc,
le métro, il arrive quand?
Le métro, c'est pour 2024.
D'accord. Si on veut donner d'autres bons plans, parce que un ou deux comme ça.
Deux villes.
Sans forcément détailler tout.
Une autre ville?
Ouais,
oui.
Où on peut investir maintenant, où il y a des
programmes. Alors, il y a des Bordeaux et Nantes, ce sont deux autres communes, enfin deux autres agglos qui fonctionnent très bien. Le problème, c'est qu'on est là sur des prix qui s'envolent. Hein, Bordeaux, c'est 7000 euros très très rapidement dès qu'on est près du Triangle d'Or. Alors, là, je vais peut-être prendre certains investisseurs à Brossepoil. Il y a Florac, que j'aime bien. Donc là, on est rive droite. Donc on se dit rive droite, oulala, attention, commune sociale, etc. L'avantage de Florac, c'est qu'on est encore intra-rocade. Ça, c'est important. Donc on est vraiment aux portes de Bordeaux. Et surtout, aujourd'hui, on a le pont Simone Veil qui est en cours de construction, qui va être mis en service en 2024. Donc ça permettra un accès très rapide à Bordeaux. Et on aura le tramway. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Bordeaux a déjà essuyé les plâtres lors de la mise en œuvre du tramway. Donc là, ça sera juste une ligne supplémentaire. Donc proche Bordeaux, rive droite, et des prix beaucoup plus abordables, puisque sur Florac, aujourd'hui, on arrive à trouver des prix de l'ordre de 4200-4300 euros le mètre carré dans le neuf. Et ça fait des rentas de 3,30 à 3,40. On est loin des 2,50, 2,60 qu'on va parfois sur Bordeaux.
Oui, c'est extrêmement clair. Alors justement, pour bien ancrer ce que vous dites, pour rappeler aussi à nos auditeurs que la vacance locative, c'est pas un petit sujet hein, quand on fait du Pinel. C'est quoi le bon plan pour justement bien anticiper? C'est de se protéger, d'être assuré? Comment on fait? Parce que souvent, quand on nous vend les Pinel, on nous garantit pas la
location. Juste avant cette question-là, on a oublié une question quand même. Ce pour arriver à la vacance locative, c'est les mauvais plans. Parce que là, on a dit les bons plans. Les villes saturées aujourd'hui où il y a de la vacance locative et après
aujourd'hui avec le zonage on est relativement protégé contre les mauvais plans.
Il y a des villes où on a surconstruit.
Ouais, alors il y a Mulhouse quand même qui est un cas.
En neuf.
Mulhouse. On est en zone B1 donc on peut théoriquement faire du Pinel. Si je vous donne les indicateurs, on a une population déjà qui décroît moins 2% quasiment depuis 99, donc c'est déjà pas un très bon signal. Et on a quasiment 16% de vacances. En fait, on a beaucoup
16%
trop
de vacances.
Pareil dans l'ancien.
Donc Mulhouse, c'est vraiment pas une ville d'investisseurs.
Alors là, les investisseurs aguerris.
Il y a eu beaucoup de construction en fait entre 2004-2011. Là, c'était la fin du Robien, début du Célier. Il y a eu beaucoup de construction et du coup, on a saturé un marché. En fait, c'est comme un pot de fleurs. Hein. Vous déversez trop d'eau d'un seul coup, ça déborde. Voilà. Là, le marché n'a pas eu capacité à absorber toutes ces constructions neuves.
C'est clair. Est-ce que c'est la ville de France où il y a le plus de vacances locatives?
Non. Il y en a, ça peut monter très haut. J'en ai une en tête que je cite régulièrement, c'est Vichy. Alors, on ne peut pas faire de Pinel, mais on peut faire du Deux-Normandie. Vichy, vous avez plus de 21% de vacances. C'est plus d'un logement sur 5 qui est vide.
Mais alors, le mètre carré, il est donné, quoi. Ouais.
Alors là, il y a des explications. Alors, il y a eu effectivement pas de Pinel, non, c'est fini. Il y a eu des explications. C'est une ville qui a été là aussi saturée pendant la période Robien. C'est une ville qui a bénéficié d'agréments quand elle a été classée en zone B2, parce que notamment les élus voulaient continuer à attirer les investisseurs sur Vichy, parce que il y a un parc en fait assez ancien qui était éligible au Malraux, et donc dire que la ville n'était plus éligible au Pinel, c'était dire aux investisseurs ne venez pas ici parce que le marché est saturé. Donc il a demandé un agrément pour que continuer à attirer les investisseurs en Malraux. Voilà.
Donc cet indicateur de vacances locatives, il est fondamental.
Ça répond effectivement. Alors juste pour compléter, est-ce que vous conseillez aux auditeurs de s'assurer contre la vacance locative? Vous savez, il y a des produits garantis loyer en payé qui assurent la première location ou qui aussi garantissent la vacance locative. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas
bien? Alors, je crois que pour moi, la seule assurance intéressante, c'est l'assurance loyer impayé. La première location et la vacance locative, si vous êtes aujourd'hui sur une commune où il y a un marché locatif, vous n'aurez pas à vous poser la question. Vous aurez peut-être un mois de frottement entre deux locations, un mois et demi, mais de toute façon, ça correspond généralement aux périodes de franchise que vous avez sur ce type d'assurance.
D'accord.
Donc aujourd'hui, sur les marchés Pinel classique, les 6% du territoire, vous n'avez quasiment pas besoin d'assurance vacances ou en tout cas de primo-location. C'est surtout l'assurance loyer impayé qui là peut vraiment mettre son propriétaire en difficulté.
Quelque chose que vous...
Les GLI, c'est assez systématique. J'en connais pas pour la vacance locative, mais ça doit sûrement exister. Les GLI, c'est très efficace. Ouais.
Mais la GLI, en plus, maintenant, ils vont bien plus loin. Ils font carrément la sélection des dossiers. Quoi.
Ouais. Ouais, nous, on externalise.
Aujourd'hui, il n'y a plus un gestionnaire en administration de biens qui fait la sélection locataire.
Quoi. Non, tout est externalisé au GLI. Ils ont des technologies, je crois qu'ils sont connectés aux impôts pour vérifier la véracité des documents.
Là, sur la fraude documentaire.
Ouais, parce qu'il y en a énormément. Donc,
on en parle peu, mais il y a aussi Visal. C'est gratuit.
Visal, c'est bien.
Je ne sais pas pourquoi. Si on rentre dans les créneaux.
Oui, il y a des gestionnaires, effectivement, qui bossent avec des AI pour vérifier, effectivement, la véracité des feuilles de paie pour voir s'il peut aider.
Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que la vacance locative pour oui, nous, alors, quand on investit dans le neuf comme ça, qui sont fondamentales.
Alors, on parlait de demande. En fait,
regardez le marché. Hein.
Tout à l'heure, effectivement, Thierry parlait de prix très bas qui sont aussi le synonyme d'un marché détendu. Bah, c'est vrai, hein, si vous n'avez pas de pression démographique, vous n'avez pas de pression sur l'immobilier. Mmh. Alors, un des indicateurs clés, c'est la variation du nombre de ménages plutôt que la population. Parce que ce n'est pas parce que vous avez des enfants que vous avez besoin de logement. C'est vraiment le nombre de ménages qui va déterminer le besoin de logement. Donc, nous, il y a un indicateur qu'on suit, c'est la variation du nombre de logements sur un territoire ramené à la variation du nombre de ménages. Donc on fait un petit ratio entre les deux sur une période longue, entre 1999 et 2018.
Mais oui, 2019, mais oui, bien sûr. Voilà. Explosion des foyers monoparentaux.
Le ratio entre les deux va nous donner une information sur le niveau de tension ou de saturation de marché. Alors c'est très empirique, on l'a vu nous en observant vraiment des centaines de communes. Le bon ratio aujourd'hui, dans cet indicateur-là, il se situe aux alentours de 1-1-1-2. Si c'est un 3, c'est pas dramatique. Mais si on est en dessous de 1, déjà, on sait très bien que la production n'a pas suffi, déjà, à ne serait-ce que répondre à l'évolution du nombre de ménages. Donc on est sur un marché tendu. Et on a des communes sur lesquelles on a des ratios de 0,6-0,5. Là, typiquement en Île-de-France, on est sur les marchés très très tendus. À l'inverse, si vous prenez des communes où on a eu beaucoup construit, alors Vichy, par exemple, hein, ce fameux ratio, il est de 4,45.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on a construit plus de 4 logements pour chaque nouveau ménage, ce qui est complètement stupide.
Saint-Étienne aussi.
Oui.
Saint-Étienne également, commune complètement saturée. Non, mais
c'est là qu'on voit l'importance d'un aménagement du territoire pensé, global, dans lequel il y a une vision qui est liée à la démographie, à d'autres facteurs sociaux qui permettent... Est-ce que l'ancien aujourd'hui est toujours... Parce que ce qu'on dit globalement, c'est que le neuf, en fait, crée... Par l'insuffisance de propositions de logement, on parle toujours qu'il faut produire à peu près 500 000 logements par an, mais bon, ça, c'est un indicateur. Est-ce que la pression sur l'ancien est toujours aussi forte aujourd'hui sur l'investissement locatif, même compte tenu d'une inflation normative et notamment la réforme du DPE qui retire du marché, je vous donne juste le titre, mais ça vous le saviez déjà, 4 800 000 logements, ne serait-ce que déjà étiquetés en lettres F et G, il y a 7 lettres énergétiques, et avec un chantier qui commence déjà d'ailleurs au 1er juillet 2022, puisqu'on ne peut plus augmenter les loyers. Et aujourd'hui, quid de tous ces éléments-là ? Je pense que le chantier de réno, pour vous, c'est...
C'est un très gros sujet.
Le sujet du jour.
Absolument. Et en plus, les nouveaux DPE sont opposables. Ça veut dire que le diagnostiqueur engage sa responsabilité juridique, donc a tendance à se protéger en donnant la pire note systématiquement. Et le coût des travaux sur fond d'hyperinflation et de conflits en Ukraine et de problèmes logistiques explose. Les banques n'aiment pas financer les travaux parce qu'on ne peut pas y coller d'hypothèque, justement, sur du placo. Donc, en fait, c'est très difficile à financer. Les prix explosent et c'est quasi systématique quand on est dans
l'ancien. Est-ce que ça ralentit l'investissement ? Première question. Et deuxième question, est-ce que ces facteurs-là, nouveaux, désolvabilisent ceux qui auraient pu accéder à l'investissement locatif ?
Alors, moi, j'observe pas de ralentissement à mon niveau, mais j'observe une baisse du panier moyen, justement, pour prendre en compte l'explosion du budget travaux. Donc, mon panier moyen, qui était à 300 000, il est passé à 250 000. Mais en revanche, mes budgets travaux ont vraiment grossi en parallèle. C'est quelque chose que j'ai envie au neuf, d'ailleurs, vous avez passé rénovation énergétique à faire. Surtout qu'il y a un manque de ressources terrible. Parce que les ouvriers, déjà qu'on en manque énormément, vous n'êtes pas sans le savoir, mais alors des ouvriers RGE... Ça ne court pas les rues. Donc, c'est très compliqué, cette histoire de rénovation énergétique.
Une étude, sur la première portail de France Rénovation, il y avait 40 entreprises qualifiées, reconnues garantes de l'environnement, ce qui est très très faible par rapport à ça. Surtout qu'en plus, pour avoir les aides, il faut être RGE.
Bah oui.
Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue, quoi.
Absolument, très compliqué. Ouais.
Combien de lots vous avez, vous, en volume ?
Alors nous, on en vend 150 par mois. On a une centaine de ces projets qui finissent en travaux chez nous. Alors on a nos propres ressources travaux, on a l'agrément RGE, etc. Mais c'est très complexe d'avoir les ressources pour assumer cette charge opérationnelle.
D'accord.
Alors on y arrive, mais...
Si on peut être concret, un particulier qui investit, ceux qui nous écoutent, s'il y a un peu de travaux à faire, parce qu'il faut qu'il se mette aux normes, il faut qu'il, par exemple, qu'il passe d'une étiquette F, G en D, par exemple, ou en E, le panier moyen des travaux à consacrer, c'est combien ?
Bah déjà que les travaux tout court, c'était cher hein, pour changer la cuisine, refaire le parquet. On était là, sur les prix actuels, on est à 1 000 € du mètre.
Ouais.
Et la réno énergétique, c'est 500 du mètre. Donc très vite, on se retrouve sur du 1 500 du mètre carré, que les banques financent assez mal. Le lot de consolation, c'est que c'est déductible fiscalement. C'est de la matière déductible, on en parlait, ça sert d'amortissement aussi. Donc c'est toujours ça en moins côté impôt. Mais bon, c'est compliqué.
C'est très clair. On a un deuxième reportage, Guillaume.
C'est le reportage. Oui, un reportage qu'on a été contraint de faire en visio ce mois-ci avec Céline Mahinck, fondatrice d'En Finance et experte en investissement locatif. On s'intéressait au Airbnb. On n'a pas parlé du Airbnb. On lui a simplement essayé de comprendre si c'est toujours un investissement aussi souhaitable pour ceux qui achètent et louent en saisonnier.
On le voit, les réglementations s'accumulent depuis des années. C'est sans doute qu'un début. Question simple pour commencer. Est-ce que la location via Airbnb reste vraiment si attractive que ça aujourd'hui ?
Les contraintes réglementaires s'accumulent et je pense que ce n'est pas fini. Alors déjà, pour bien rappeler, parce que non seulement elles s'accumulent, mais en plus, je ne suis pas sûre que tous les bailleurs, donc les propriétaires qui veulent instaurer de la location touristique ont bien en tête tout ce qu'ils ont à faire. Alors déjà, bien se rappeler que absolument dans toutes les communes, il doit y avoir la déclaration préalable d'activité. Ensuite, en gros, pour faire simple, mais bon, il y a un décret précis, hein, dans les zones tendues, il y a une autorisation de changement d'usage, c'est-à-dire que mon appartement au départ était destiné à de la location nue, et oui, je dois faire une demande de changement d'usage, je ne peux pas faire ce que je veux avec mon bien immobilier. Et troisièmement, comme vous venez de le souligner, dans certaines communes, alors historiquement, hein, Paris, Lyon, Villeurbanne, Nice, et là, tout le Pays Basque et d'autres, ces communes imposent des règles de compensation qui vont être d'ailleurs plus ou moins compliquées à obtenir. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible, par exemple, de mettre en œuvre la règle de compensation pour Paris.
Oui.
Donc, des contraintes réglementaires qui sont strictes, qui vont probablement s'accentuer parce que, par exemple, on voit que les contraintes des DPE, donc du diagnostic de performance énergétique, ne s'appliquent pas aujourd'hui aux locations meublées. J'ai du mal à voir entre l'attrition du marché de la résidence principale, la volonté du législateur d'essayer justement de canaliser cette offre galopante vers du meublé, a fortiori touristique, j'ai du mal à visualiser que ça aille pas aussi sur ce marché-là. Donc, des contraintes. Alors, pour répondre du coup maintenant à la question, est-ce que c'est toujours rentable ? Eh ben, ça va vraiment dépendre de la façon dont on fait ce meublé touristique, puisqu'on peut soit faire de la sous-location de sa résidence principale, soit le louer entre deux baux un petit peu plus longs parce que on a fait du meublé, mais pour la résidence principale du locataire, c'est-à-dire pour un étudiant ou pour quelqu'un qui est en mission professionnelle, voilà. Et entre deux contrats, on va faire un peu de meublé touristique, ou alors franchement, ne destiner son bien qu'à du meublé touristique. Quand on fait que du meublé touristique, c'est-à-dire vraiment des très courtes durées, bah, ça va dépendre du niveau de location qu'on fait et donc de la ville dans laquelle on est. Mais on va pouvoir garder en tête qu'il faut en gros au moins 120 nuitées de location pour que ça devienne à peu près comparable à une location pour résidence principale.
Dans tous les autres cas, vous privilégiez une autre solution que Airbnb, c'est ça ?
Disons que voilà, il faut déjà un certain seuil, un certain nombre de nuitées à l'année pour qu'on commence à pouvoir regarder et que le chiffre d'affaires commence à être intéressant. Après, il faut quand même pas oublier que les frais de gestion sont quand même beaucoup plus élevés dans la location touristique. On part d'environ 20-25% que dans le meublé standard pour la résidence principale et donc a fortiori pour la location nue, qui est de l'ordre de 8-10%. Donc, vous voyez que l'échelle est grande. Il y a des taxes d'hôtellerie dans le meublé touristique qu'on n'a pas dans la location nue, par exemple. Donc, oui, moi, je vois que je suis persuadée que la location meublée peut être extrêmement intéressante pour un certain nombre de personnes. Sans trop rentrer dans le détail, on peut avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle des dotations aux amortissements et donc de fabriquer artificiellement des charges. En fait, on amortit la valeur des murs et des meubles, ce qui fait qu'on va neutraliser la fiscalité des revenus perçus. Mais cet amortissement est proportionnel au temps loué. Donc, quand on fait du meublé touristique et donc on va louer en gros l'équivalent de 4 à 5 mois équivalent temps plein dans l'année, bah on perd tout ce levier qui est quand même fortement intéressant. Et puis, on se rajoute des contraintes qu'on n'a pas forcément avec le meublé pour la résidence principale du locataire.
Donc, le meublé plutôt que le meublé touristique, avec peut-être un ou deux arguments supplémentaires, Céline.
Donner un bien meublé, par exemple, à une société. La société va s'en servir pour y loger ses cadres qui sont en mission ou ses cadres qui habitent pas forcément là où il y a le siège et qui viennent que temporairement. Là, c'est encore un niveau supplémentaire d'efficience pour le bailleur, puisqu'il sera notamment pas sujet à l'encadrement des loyers.
D'accord. Sur les locataires, tout simplement, le locataire qu'on a en meublé long terme et le locataire qu'on a en meublé touristique, c'est un argument aussi, la difficulté
oui. Du
locataire.
Ouais, on croit comprendre que les bailleurs se tournent vers le meublé parce qu'ils craignent les impayés de loyer dans la location nue. Mais là, on voit poindre d'autres problématiques avec le meublé touristique. C'est notamment les gens qui vont louer pour un week-end, par exemple, une super villa pour faire une teuf d'enfer et limite tout saccager. Donc là, il y a d'autres problématiques qui sont quand même conséquentes qu'on voit se matérialiser également. Donc attention.
Merci Céline.
Merci à vous. Merci de votre invitation.
Réaction rapidement sur ce que vous avez entendu.
C'était un peu long, ça reste, mais elle a dit beaucoup de choses.
Moi, ce que je traduis, c'est que finalement, ça a été très bon Airbnb. Il y a eu une période très fastueuse. Et que là, il y a
ça
plus de mesures.
De questions,
voilà, ça pose beaucoup de questions. Et je vois poindre aussi, et ça, c'était en liminaire, des Airbnb qui basculent en loyer meublé. Ouais. En bail meublé, de plus en plus.
On a vu beaucoup ça pendant le confinement, les Airbnb qui passaient en meublé long
peut-être
terme.
J'avoue, il y a peut-être des gens.
Nous, on a récupéré en location pas mal de passages Airbnb.
Non, mais dans la réaction de vos clients, on ne vous demande pas de faire du meublé, du Airbnb aujourd'hui.
On ne nous demande pas, mais on nous pose la question. Ce qu'on voit en Allemagne qui est intéressant, c'est une boîte comme Wunderflat qui fait de la moyenne durée. En Allemagne, ils adorent la moyenne durée. Et là, on commence à le voir un peu en France. D'accord. Donc, c'est vraiment un entre-deux.
C'est quoi une moyenne durée? C'est un an?
C'est 3, 4, 5 mois, c'est les bails, les beaux mobilités.
C'est du co-living, quoi, adapté.
Ouais, c'est le dev qui veut aller coder à Marseille.
On a un contrat comme ça, c'est pas le bail mobilité.
Bail mobilité, ça marche bien, mais je sais que les nouveaux acteurs sont en train d'étudier les droits des baux pour trouver le bon bail qui permet à la fois de mettre un petit complément de loyer, donc qui nous rappelle un peu le Airbnb, tout en restant réglementairement dans les clous, quoi. Donc on peut louer toute l'année en moyenne durée. Donc c'est ce que je vois émerger. Moi, je vois beaucoup de moyenne durée en ce moment. Et sur le court terme, en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde du réglementé, donc toutes les grandes métropoles, et le non réglementé. Et là, il y a des choses à faire assez rigolotes. Typiquement, nous, on avait accompagné un client qui investissait près des centrales nucléaires. Parce que près des centrales nucléaires, il y a une vraie demande de la part du staff qui n'a pas vocation à habiter là. Donc, il va dans des Airbnb payés par l'entreprise, on en parlait. Et les prix sont très déprimés. Il n'y a pas de loi particulièrement encadrant l'Airbnb. Ou près du Puy du Fou, le petit village, une fois que le parc hôtelier de la ville principale a été surexploité, le petit village qui traîne à côté, on rajoute quelques Airbnb pour tirer profit. Donc voilà, en fait, c'est que des arbitrages d'anomalies à l'échelle du territoire où il y a une très forte demande, pas de réglementation parce qu'on n'est pas dans une grande métropole et des prix bas, donc des grosses rentas. Ça, je le vois beaucoup. Donc, moyenne durée et exploiter les anomalies liées à des lieux d'attractivité.
Franck ?
Je crois effectivement la crise sanitaire a été un peu le révélateur des travers d'Airbnb, puisqu'il y a eu en fait aucun touriste, étranger en tout cas, pendant des mois, impossibilité de se déplacer en France. Et d'un seul coup, les propriétaires se sont dit finalement, je vais peut-être changer d'orientation et transformer mon logement en résidence principale ou en tout cas en meublé classique. Il y a un deuxième phénomène, je pense, qu'il va falloir prendre en compte, c'est le mauvais œil aujourd'hui de certaines municipalités vis-à-vis de ce type de location qui ont tendance à mobiliser des logements pour les salariés, pour les personnes pour les actifs. Et du coup, ça crée une pénurie, ça engendre la hausse des prix, la hausse des loyers, etc.
Bien sûr,
donc,
bien sûr.
au moment où on parle, on commence à parler de blocage des loyers.
On l'a vu à Paris.
Voilà, mais c'est en train de revenir un petit peu avec les sujets d'inflation. Il n'est pas exclu qu'on durcisse à l'avenir ces conditions d'obtention d'agrément pour essayer de réduire un petit peu cette captation du marché par ce type de location.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de passer par les studios de Radio Immo avec nos confrères de Capital pour cette émission. Merci à vous Thierry Vignal, je rappelle que vous êtes le président de Mastéos. On vous retrouve d'ailleurs sur le site internet www.masteos.com. L'URL est sur le podcast, vous n'avez juste qu'à cliquer. Et merci à vous Franck Vignaud, vous êtes directeur du laboratoire de l'immobilier, pour venir nous voir, hein. C'est très intéressant ce que vous faites, et ça nous permet d'avoir une observation du flux du marché. Je rappelle l'adresse de votre site internet www.labo-6imo.org pour avoir tous les conseils sur l'immobilier, mais aussi les données précieuses. Le conseil juridique de la NIL, c'est à suivre et c'est dans un instant. Merci messieurs et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de la NIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement.
Voilà, le point d'information sur le logement avec nos amis de la NIL, c'est Roselyne Conan qui est avec nous. Comment ça va Roselyne ?
Bonjour messieurs, très bien.
Alors, on va parler toujours les bons conseils sur le logement, n'est-ce pas Guillaume ?
Oui, Roselyne, vous allez nous parler d'une future réglementation, je crois que c'est septembre, à partir de septembre il y aura un nouvel audit obligatoire pour les maisons.
Encore un ?
Allez,
alors, norme. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, hein? Donc on a un décret, un arrêté, hein, ouais, du 4 mai, qui ont été pris en application donc de la loi Climat et Résilience, et qui vont rendre ces deux textes. Enfin, c'est la loi qui a rendu obligatoire donc la réalisation donc en cas de vente d'une maison ou d'un immeuble qui appartient au même propriétaire, et si ces biens sont énergivores, l'obligation de réaliser un audit énergétique. Alors, pourquoi, vous allez me dire, un audit énergétique ? C'est vraiment, l'objectif, c'est d'informer de manière précise le candidat acquéreur sur le bien qu'il achète, puisque, comme vous le savez, depuis 2006, quand on vend un bien, on a l'obligation de produire un DPE. Ça, c'est maintenant, c'est vraiment entré dans les mœurs. On maîtrise bien.
Ancien DPE, nouveau DPE, voilà, c'est intégré.
Depuis le 1er juillet, on sait que maintenant, il y a à la fois...
Le logement collectif, on va dire.
Voilà. Donc là, c'est clair. On sait qu'on a une note qui va intégrer à la fois la consommation du logement, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre. Et là-dessus, à partir du moment où on vend une maison individuelle ou quand on est propriétaire d'un bien, d'un immeuble seul et qu'on le met en vente, on a l'obligation de réaliser cet audit qui est réalisé pour les logements donc qui sont énergivores. Donc pour les classes effectivement qui sont F et G, cette obligation, comme le disait très précisément
Vous voulez dire que si c'est
Guillaume,
pas classé F et G, c'est pas obligatoire ?
C'est pas tout de suite.
D'accord.
Voilà. Okay. Le 1er septembre, comme le disait Guillaume, c'est pour les
1er septembre 2022, étiquette FG obligatoire.
Voilà.
À la vente, hein. Immeuble en bloc, c'est-à-dire où il y a un seul propriétaire,
ouais, et maison individuelle.
Voilà. Vous faites un audit en plus.
C'est ça. Cadeau. 1er janvier 2025, logement classé E. Et 1er janvier 2034, logement classé D.
Comme pour le collectif, finalement. Voilà. C'est le même calendrier.
Donc, l'objectif, est vraiment d'avoir une cohérence des calendriers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un audit énergétique ? Alors, on a une petite idée, puisqu'on se rappelle les copropriétés qui avaient plus de 50 lots avec un système de refroidissement, de chauffage collectif, avaient déjà l'obligation de réaliser un audit. Donc, maintenant, on a basculé.
Quand on dit audit, DPE, c'est pareil ?
Non.
Mais non, justement.
D'accord, c'est DPE et audit. Hein.
Parce DPE.
On a un DPE qui dit mauvaise note.
Oui.
Et du coup, audit.
Voilà. D'accord. Donc, c'est le double effet qui se coule, quoi.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qui différencie un DPE d'un audit énergétique ? L'enjeu de l'audit énergétique, il est là pour à la fois faire, en fait, une projection, finalement, de l'opération d'achat-rénovation pour les logements qui sont énergivores, pour informer le candidat acquéreur sur les travaux réalisables, donc sur 6 catégories de travaux, sur de l'isolation, les changements de fenêtres, etc., le système de chauffage eau chaude, pour chiffrer, pour quantifier ces travaux, et puis aussi identifier les aides mobilisables, puisque l'enjeu, il est d'informer
la
personne qui achète.
On achète en connaissance de cause.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas l'obligation, au moment où on achète, de réaliser les travaux qui sont identifiés dans l'audit. C'est-à-dire qu'on saura qu'on peut réaliser les travaux. Et d'ailleurs, l'audit, il explique que l'on peut réaliser les travaux soit en une étape, parce que l'objectif, il est quoi ? Il est de réaliser des travaux pour porter l'étiquette énergétique au niveau de B. C'est donc ça veut dire que ça fait quelques... Voilà, très ambitieux. Mais le texte a quand même prévu des dérogations. Si la qualité architecturale, si le montant des travaux, finalement, est trop élevé, crée des impossibilités, on a des cas d'exception où on exigera uniquement une montée de deux notes. On ne sera pas obligé d'atteindre le B, on pourra atteindre que le C, éventuellement.
Déjà. Quand tu vois des maisons genre Longères, Berrichonnes,
avec l'audit énergétique.
Je veux dire, pour arriver à une étiquette B, quand même, sur les 7 lettres énergétiques.
Mais du coup, on saura quels travaux réaliser, combien ça va coûter. Et si on a des aides qu'on peut mobiliser.
Donc, comme ça, on achète,
Donc les aides nationales, les aides locales. Et donc là, je le rappelle, surtout n'hésitez pas.
Ça va aider les acheteurs à sacrément négocier.
Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas hésiter, justement, puisque l'ANIL donc, fait le recensement des aides locales aux travaux, puisque les collectivités locales, je le rappelle, qu'elles soient donc, communautés de communes, départements, régions, peuvent mettre en place des aides à la rénovation. Il y a plus de 1500 aides qui sont recensées sur le site de l'ANIL. Alors, pas que des aides à la réno énergétique, il y a d'autres aides, l'adaptation, etc. Mais c'est important. Justement d'avoir le calibrage des travaux que l'on réalise en une fois ou par étape, ce que ça va représenter en coût et qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme aide pour réaliser ces travaux.
Et si on appelle les ADIL, notamment, vous nous conseillez sur les bons interlocuteurs parce que qui c'est qui fait un audit ?
Alors, les auditeurs, on a soit des bureaux d'études qui sont certifiés audit énergétique, des architectes. Également.
Les
diagnostiqueurs qui ont justement cette certification audit énergétique. Vous pouvez accéder notamment sur le site France Rénov. Quand on cherche un artisan, un professionnel, on peut aussi passer par ce site-là qui répertorie les professionnels qui sont habilités à faire de l'audit énergétique.
Et qui dispose de toutes les garanties.
Tout à fait.
Ça a quel coût ?
Alors, entre une maison qui fait 70 mètres carrés et un immeuble de 6 étages avec 4 appartements par étage, il n'y a pas de... Le coût n'est pas réglementé.
C'est quoi ? C'est un coût au mètre carré ?
C'est libre.
D'accord.
Des exemples, peut-être pas, on ne sait pas encore.
Non, une maison, une maison classique en moyenne.
Sur une maison qui n'est pas trop grande, on sera plutôt entre 800 et 1000 euros.
Ah, quand même !
Ah, mais il y a un vrai. Il y a un vrai travail. Enfin, je veux dire,
c'est pas évident. Quoi.
Donc, qualifier les travaux, chiffrer les travaux, identifier les aides.
Si c'est 800 à 1000 euros pour une maison, j'ose pas. Savoir ce que c'est que pour un immeuble qui fait 4 étages.
Ouais. Et sachant que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, l'audit il va être valable 5 ans.
D'accord.
On a vendu son bien. Mais que l'audit il va être obligatoire quand on mobilise certaines aides.
D'accord.
Donc l'éco-prêt à taux zéro, par exemple, MaPrimeRénov dans le cadre du forfait de rénovation globale, ou les C2E en cas de rénovation globale. Là, on fait un audit énergétique. Pourquoi ? Parce qu'on doit mesurer avant-après travaux.
D'accord.
Eh bien, c'est très clair. Voilà. C'était le point donné par Roselyne Conant, directrice générale de l'Agence nationale d'information sur le logement. On peut retrouver toutes ces informations sur le site.
Sur le site de l'ANIL.
Sur le site de l'ANIL, voilà.
Et vous avez une très belle analyse juridique qui va encore plus dans le détail, justement, de cet audit énergétique, de ces nouvelles obligations. Puisque là, voilà, il y a de nouvelles choses qu'il faut savoir. Donc,
c'est très clair. Donc, le point d'actu, c'est au 1er septembre 2022, les étiquettes F et G, audit obligatoire, on peut dire les choses
exactement.
Comme ça.
Sur les maisons.
Et d'ailleurs, nous recevons dans quelques jours sur Radio Immo, Grégory Monod, le patron du pôle habitat de la FEB qui s'occupe aussi de la vente des maisons individuelles. Et ça va être aussi le sujet du jour. Merci Roselyne. Et on se retrouve le mois prochain pour le conseil de l'ANIL.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Voilà, après ces précieux conseils de nos grands invités justement sur le parcours résidentiel et les conseils pour vos investissements, on va parler avec nos experts. Vous êtes toujours dans ce 39e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier, comme vous le savez, sur le groupe des proprios gérés par Capital Club Facebook, toujours accompagné de l'ami Vincent. Et là, on a aujourd'hui une grande professionnelle de l'immobilier.
La meilleure de la meilleure, on m'a dit.
Moi, je dirais le top du top.
Le top du top.
On va pas bouder notre plaisir. Hein.
Nathalie Nakache, bonjour.
Bonjour.
Agent immobilier à Paris, c'est votre première dans le Grand Rendez-vous. On fait un vœu, comme vous voulez. On a deux questions pour vous, deux questions piochées sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Comme le disait Sylvain, voici la première. Bernard et Elisabeth de Grenoble projettent d'acheter une résidence secondaire. Ils remboursent déjà un crédit pour leur résidence principale. Les banques risque-t-elle de leur imposer des conditions particulières pour l'obtention d'un nouveau prêt? Et est-ce qu'il existe par ailleurs des montages avantageux pour ce type d'opération?
Alors déjà, félicitations à Bernard et Elisabeth qui envisagent d'acheter une résidence secondaire après la résidence principale. C'est effectivement ce que beaucoup pensent en ce moment parce que on a envie d'extérieur. Alors, vous savez que depuis le 1er janvier, les banques sont quand même un petit peu restrictives et le niveau du taux d'endettement à 35% va être regardé. Mmh. Donc la difficulté que vont avoir Bernard et Elisabeth, ça va être de faire converger le crédit de la résidence principale, s'il en reste un, avec celui de la résidence secondaire. Et là, les banques vont être extrêmement restrictives sur ce niveau d'endettement. Donc ça, c'est le premier point. Néanmoins, on a quand même la chance d'avoir des courtiers ou des banques d'un bon niveau qui vont peut-être étudier avec eux la possibilité de faire un prêt lycée ou un prêt par palier, c'est-à-dire essayer peut-être de réduire un petit peu les mensualités du crédit d'un résident secondaire pour que ça passe au niveau des 35%, mais ça va être dans la condition que le prêt de la résidence principale ne soit pas non plus trop lointain dans le temps en termes de remboursement. Mais c'est une possibilité. Une autre possibilité, alors je ne sais pas si on peut le dire, parce que ça peut être une manière de présenter le dossier de la résidence secondaire de manière un peu plus propre ou un peu plus présentable, qui serait de dire, non pas résidence secondaire, mais résidence investissement locatif, avec en face un revenu locatif théorique qui va permettre de réduire un petit peu le niveau d'endettement et ça passera peut-être un peu mieux.
Mmh. Voilà pour les avantages.
D'où l'intérêt d'ailleurs de choisir un très bon courtier qui a, outre le fait de nous trouver une banque, une vision du conseil dans le meilleur montage.
Vous avez raison parce que rares sont les courtiers ou les banques qui sont capables de faire ces types de prêts lycée ou prêts paliers. Donc choisissez bien.
Ça demande des compétences.
Prêt lycée, ça force. C'est pareil. Ça coûte forcément un peu plus cher, non?
Non. Oui, parce que forcément, vous allez repousser un petit peu plus le montant des intérêts.
On peut se permettre.
Mais compte tenu des taux actuels, ça vaut le coup. Et si ça permet de faire rêver Bernard et Elisabeth, moi je le ferai.
Moi, j'aime beaucoup l'idée. Hein. Oui. On réalise le rêve des personnes au quotidien.
Absolument.
C'est jubilatoire quand on remet les clés à quelqu'un que vous lui avez vendu. Et voilà, c'est un moment d'émotion, c'est l'achat d'une vie quand même, pour le rappeler.
C'est des projets de vie, des vrais projets de vie.
De rêve.
Voilà. Réenchantons l'immobilier. D'accord,
mais pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde.
Vous l'incarnez tellement bien. Nathalie, merci. Autre question de Philippe cette fois. Il a effectué une offre d'achat sur une maison, une offre acceptée et contresignée par le vendeur. Quelques jours plus tard, le vendeur lui a fait savoir qu'il ne souhaitait plus vendre. A-t-il le droit de se rétracter?
Ça, ça fait pas rêver, par contre.
Pardon?
Ça fait moins rêver.
C'est le moins le rêve.
Non, ça fait moins rêver, en tout cas pour Philippe, parce que Philippe, lui, a besoin d'avoir des garanties. Il a pris, il a visité une maison, un appartement.
Il s'est projeté.
Il a pris le risque de faire une proposition d'achat bien formulée. J'imagine qu'il est passé par un bon agent immobilier qui lui a fait remplir toutes les conditions d'une offre d'achat, parce qu'il faut que tous les termes soient correctement rédigés. Conseiller, agent immobilier qui a bien fait son travail parce qu'il a fait contresigner l'offre d'achat et en plus je pense qu'il y a une acceptation nominative, c'est-à-dire qu'il doit même y avoir le nom de Philippe dans l'acceptation et auquel cas, en principe, Philippe pourra avoir sa maison ou son appartement parce que le vendeur est engagé. À partir du moment où il a accepté une offre qui remplit toutes les conditions d'acceptation, avec tout doit être bien précisé, le prix de vente, la désignation du bien, le niveau de financement, enfin, toutes les précisions, une date limite aussi de réalisation. Mais le vendeur, à partir du moment où il s'est engagé parce qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix. Il y a même un article du Code civil, je vais le lire parce que je ne m'en souviens plus, c'est l'article 1113 du Code civil qui précise justement ces termes et qui garantit à l'acheteur qui a eu sa proposition d'achat contresignée de pouvoir aller à son terme. Seule possibilité pour le vendeur, c'est peut-être une négociation amiable avec Philippe, peut-être même moyennant une petite compensation financière du préjudice subi. Mais là encore, c'est Philippe qui va être le chef d'orchestre et seul décisionnaire du oui ou du non. Autre dernière possibilité, c'est si l'offre d'achat a été mal remplie ou si elle précise, par exemple, qu'un compromis de vente doit être signé avant une date limite. Si jamais on prolonge et que la date limite est dépassée, le vendeur pourrait avoir une porte de sortie.
À l'inverse, si c'est le vendeur, l'acheteur qui se désiste, il a plus de facilité.
L'acheteur est complètement libre, oui. Malheureusement, en fait, parfois.
Le consommateur est très protégé dans ce pays, finalement.
Le consommateur est de plus en plus protégé.
Il y a un délai de rétractation, je crois, de 10 jours.
Quand j'ai commencé, parce que vous avez dit que j'étais un petit peu ancienne, avant, une offre...
C'est pas moi qui l'ai dit.
Mais avant, une offre d'achat était même accompagnée d'un chèque et c'était quasiment un compromis de vente, avec le risque de perdre une petite indemnité. Aujourd'hui, l'acheteur peut se rétracter, y compris pendant l'offre d'achat, y compris pendant un compromis de vente avec le délai de rétractation. Donc seul le vendeur, là pour le coup, est complètement engagé vis-à-vis de Philippe.
C'est très clair.
Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous. Nathalie Nakache, 6 agences dans le centre de Paris, c'est le groupe Fortis Immo Paris Keller Williams. On vous retrouve sur fortisimmo.fr assez facilement.
Un grand merci à vous.
Merci Nathalie. Merci. Et vous revenez nous voir, c'est promis.
Merci.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, Droit dans l'Immo, avec Orpi.
Eh bien, c'est l'heure de retrouver Droit dans l'Immo, qui est la séquence que vous aimez bien, les amis. Pourquoi ? Parce qu'on interview des professionnels dans le réseau d'Orpi, qui, je le rappelle, est le premier réseau français, sur les empreintes territoriales, mais aussi sur leur vision de l'immobilier. Et il est temps de retrouver, il est en duplex avec nous, il est au Havre, il fait très beau d'ailleurs au Havre, c'est Yann Sayaret qui est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour.
Alors, nous allons voir avec vous comment évoluent les opérations d'investissement en France à travers l'exemple de votre réseau notamment. Et je laisse la première question à Guillaume Chazoulière.
Oui, bonjour Yann Sayaret. Alors, après deux ans de crise sanitaire et les déplacements de population qu'on a connus, notamment des grandes agglos vers les villes moyennes, j'ai envie de vous poser cette première question. Est-ce que vous observez, vous, de nouveaux spots propices à l'investissement locatif, des spots qu'on ne soupçonnait pas avant ?
Alors, en fait, oui, effectivement, on a un changement un petit peu d'objectif pour les locataires. On s'aperçoit qu'ils cherchent un peu plus de surface, un peu plus de surface extérieure aussi. Enfin, ils veulent un bout de jardin, une terrasse, un balcon. Et donc, ils s'orientent vers des villes moins importantes pour trouver leur bonheur. Et on a effectivement des villes qui ressortent avec des rentabilités très très attractives. Est-ce que vous voulez que je vous donne
exemples? Au contraire, on est plus que preneurs.
Ouais. Allez, je vais vous donner un exemple. On va commencer par la ville de Limoges, où on a effectivement des prix pour l'investisseur à 1650 euros du mètre carré, avec une rentabilité de 7,3%. Et on a aussi une autre ville, Valence, moins de 2000 euros du mètre carré avec une rentabilité à 7,3%. Donc ce sont des villes où les investisseurs se tournent parce qu'il y a de très bonnes rentabilités.
Et on loue là-bas. Est-ce qu'il y a une bonne profondeur locative, ouais. Il y a une tension locative.
Oui, on loue là-bas et on loue à des prix qui sont quand même 10 euros du mètre carré pour Limoges, 12 euros du mètre carré pour Valence, donc des prix qui sont quand même très corrects.
Et il y a de la demande
pour, voilà, pour des villes qui, Limoges, je vous rappelle, c'est 134 000 habitants, Valence, 62 000 habitants, donc des villes qui sont quand même de moindre importance par rapport aux grandes métropoles.
Bien sûr, donc, et il y a une tension locative qui fait qu'on est sûr de louer.
Oui, parce que de manière générale, actuellement, on loue plutôt facilement et rapidement. Pourquoi ? Parce que on remarque en période de crise, qu'elle soit économique, sanitaire ou internationale, les locataires, en fait, ne donnent pas congé. Ils déménagent très peu, ce qui fait qu'il y a peu de biens libres à la location. Et là, le marché est vraiment, pour les bailleurs, favorable aux bailleurs, puisque y a peu d'offres pour beaucoup de demandes.
C'est très clair.
Et puis vous dites que c'est des villes qui attirent des nouvelles populations, quoi. Donc avec de nouveaux locataires qu'on n'avait pas avant.
Voilà, d'autant que le télétravail favorise effectivement ce déplacement vers des villes plus éloignées du lieu de travail.
Alors justement, Yann, vous l'avez rappelé très justement, dans un contexte d'incertitude économique, on peut le dire, avec à la fois géopolitique, avec la guerre en Ukraine,
l'inflation
qui, je le rappelle, au mois de mai a atteint les 5,2%, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, avec quand même encore, pour pondérer, des taux d'intérêt toujours aussi attractifs. Bon, la question que je vous pose, c'est un peu alors sans faire de prophétie, mais est-ce que dans ce contexte, l'investissement dans la pierre est toujours aussi une bonne garantie de placement ?
Alors, comme dirait ma femme, oui. Trois fois oui. Alors, pourquoi ? D'abord, parce que le logement, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Il ne se logera jamais de manière virtuelle. Donc, on aura toujours de la demande. Oui, aussi, parce que vous pouvez vous assurer contre les loyers impayés. Ça veut dire que vous garantissez vos revenus. Et encore oui, parce que votre bien immobilier, en fait, suit le coût de la vie et les loyers sont indexés, sont corrélés à l'inflation. Aujourd'hui, avec 10 000 euros sur un livret A à 1%, vous l'avez remarqué à l'instant, quand on a une inflation à plus de 5%, on perd de l'argent.
Oui.
10 000 euros dans un bien immobilier, avec le levier de l'emprunt, vous multipliez votre mise.
Oui, justement, ce que les Français parfois perçoivent mal, c'est que ils ont tendance à se dire que dans une période inflationniste, ils ont du mal à dire « je vais continuer à investir » ou « je vais placer ». Est-ce que justement, pour corroborer ce que vous dites, est-ce que c'est justement dans ces climats un peu incertains que là, justement, l'investissement, il est bankable, il est hyper intéressant ?
Mais oui, pour les raisons que je viens de vous donner, c'est hyper intéressant parce que à euro constant, votre bien, il continue à se valoriser par rapport à un placement purement financier où vous allez perdre de l'argent du fait de l'inflation. Et puis vos loyers, ils suivent l'inflation. Donc vous avez des revenus qui augmentent en même temps que l'inflation.
Alors justement, non, mais les revenus augmentent en même temps que l'inflation, mais dans l'investissement locatif, il y a aussi le fait que ça fluidifie dans certaines régions qui n'étaient pas des régions hyper bankable sur le plan de l'investissement. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a des chiffres au mètre carré en acquisition qui sont à moins de 2000 euros. Donc ça veut dire que en termes d'investissement pour des Français qui ont des revenus moyens, ils ont encore la possibilité d'investir. C'est pas uniquement, vous voyez ce que je veux dire, des investissements D'accord. réservés à des investisseurs qui ont des moyens. C'est aussi des petits épargnants qui ont la possibilité de faire des petites opérations.
Oui, oui, tout à fait. J'avais mal compris votre question. Effectivement, en fait, vous pouvez trouver des investissements dans des villes où le prix du mètre carré est très raisonnable. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une ville comme Montluçon où le prix du mètre carré est à 800 euros.
Wow.
Donc vous pouvez commencer à investir effectivement à des montants de très raisonnables. Je peux vous dire que bon moi je travaille sur la ville du Havre. On a énormément d'investisseurs de la région parisienne qui investissent sur le Havre parce que le ticket d'entrée est à 50 ou 60 000 euros pour un studio, ce que vous ne trouvez pas effectivement dans certaines grandes villes.
Et la tension locative est réelle aussi.
Et il y a une vraie demande locative, c'est-à-dire qu'un appartement qui est dans un emplacement correct, dans un état correct, on le loue sans aucune difficulté.
Merci Yann Sayaret.
Merci beaucoup.
De toutes ces informations. On peut vous retrouver d'ailleurs sur le site de Orpi, www.orpi.com. Et si vous souhaitez, les amis, investir... au Havre, par exemple, la seule... voilà. On se fera plaisir de vous mettre en relation avec Yann Sayaret. Alors, c'est très intéressant ce que vous avez dit, Yann, parce que justement, il y a une ville qu'on n'avait pas checkée tout à l'heure avec d'autres experts qui sont passés sur le plateau. C'est la ville de Limoges, voilà. Pour le Corrézien que je suis, j'aime beaucoup voilà cette idée de Limoges à surveiller. On vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Droit dans l'Immo. Merci Yann Sayaret. Droit dans l'Immo, les conseils qui sont donnés dans les territoires pour vous qui êtes sur le parcours résidentiel. On se retrouve pour la prochaine séquence.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Voilà, ça vous concerne, troisième et dernière partie dans votre séquence mensuel, avec un expert, et pas des moindres, nous avons un notaire célèbre sur le marché, qui connaît bien son métier, et on a rêvé de l'accueillir, n'est-ce pas l'ami Vincent ?
Oui, on ne présente plus, Thierry Delsalle, bonjour.
Bonjour.
On vous a déjà vu ici dans le grand rendez-vous de l'immobilier pour répondre aux questions des auditeurs posées sur le Club des Proprios, le groupe Facebook géré par Capital. Voici la première pour vous, Thierry. Pierre s'apprête à vendre un appartement qu'il avait mis en location ces 15 dernières années. Il a effectué des travaux de rénovation importants, notamment en remettant à neuf toute la cuisine, nous dit-il. Est-ce qu'il peut déduire ses travaux de sa plus-value ?
Eh ben, c'est pas l'idéal, en fait.
Ça va lui faire plaisir, là, quand il va l'écouter.
Oui, là, il n'a plus qu'à faire le calcul.
La bonne option.
Et oui, c'est pas forcément la bonne option.
Alors, pourquoi?
En fait, les critères qui sont retenus depuis 2005, il y a eu un changement sur les plus-values immobilières en 2005. Avant, effectivement, on pouvait déduire pas mal de travaux. Et depuis 2005, l'administration fiscale a dit qu'on ne pouvait déduire les travaux que s'ils étaient de reconstruction, surélévation, ou qui apporte un élément de confort nouveau.
Cuisine.
Alors, j'achète une boutique, j'achète un local commercial, je transforme en logement, je crée une salle de bain, je crée une cuisine, yes. Mais là, je rénove tout. Vous recréez aucun élément de confort nouveau, en réalité.
C'est de la rénovation, quoi.
Et oui.
Même si on met deux fours.
Non, mais il y a pas de
mais le mobilier, pas forcément.
Et ça va s'apprécier ou
Alors, bon, il y en a qui tentent le coup.
Il s'est requalifié ou...
En matière de plus-value immobilière, c'est vrai que c'est le notaire qui est quand même censé un peu contrôler.
Voilà.
S'il a un notaire relativement complaisant, ça peut passer. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que depuis 2005, je ne devrais pas le dire, mais comme l'intégralité des déclarations de plus-value sont faites par les notaires, eh bien, et c'est en année N, alors qu'avant, vous savez, c'était en N plus 1, il y avait, d'après eux, à peu près un tiers de fraude fiscale qui déclarait jamais les plus-values. Là, aujourd'hui... dans les administrations fiscales, les services de contentieux sur les plus-values, il n'y a presque plus personne. On s'occupe des donations, on s'occupe des successions, mais les plus-values, comme ils savent que ça vient des notaires, les notaires sont le garant de la bonne exécution de la loi.
Et oui, bien sûr.
Et donc, il n'y a presque plus de contrôle. Voilà l'idée.
Donc c'est une bonne idée d'avoir un ami notaire.
C'est vraiment un ami complaisant, parce que là, c'est vrai que c'est un peu gros, le truc. Hein. Ça va pas vraiment passer. Il faudrait vraiment qu'il y ait une rénovation.
On a compris que vous, le coup de la cuisine,
ça passera pas.
Non. Mais est-ce qu'une création de cuisine dans un logement où il n'y en avait pas, j'exagère,
oui,
mais...
absolument. Voilà.
Non, j'exagère, mais ça pourrait...
Oui, tout à fait. Vous avez trois chambres de bonne, vous réalisez dedans, salle de bain, cuisine.
C'est ça,
là, on est bon.
Et alors là, la règle, qu'on explique bien jusqu'au bout, la règle, c'est quoi? C'est qu'on prend le coût des travaux. On le rajoute au prix d'achat, ça réduit...
Oui, en fonction de l'année, si les travaux sont faits au milieu, admettons, il y a 7 ans, par exemple, un changement de locataire, il y a un calcul assez sioux que ça fait, mais c'est possible. Alors, élément de confort nouveau, aujourd'hui, c'est tout ce qui est réglementation thermique.
Ah oui, ça joue, ça.
La rénovation énergétique que vous mettez en place, qui n'existait pas, là, on est dedans. Mais pour autant, il ne faut pas que ces travaux aient été déduits des revenus fonciers. Parce que je ne me souviens plus du prénom de votre auditeur.
Pierre,
mais si Pierre a déjà déduit les travaux de ses revenus fonciers, c'est déduit une fois, ça ne peut pas être déduit deux fois.
Oui.
C'est mort.
Donc ça, le notaire aussi va le vérifier.
Bah oui.
Donc il a intérêt à être bien conseillé
C'est intéressant, Guillaume, parce qu'on ne l'avait pas percuté.
Mais pour tous ceux qui vont devoir...
Sur la réno, c'est hyper intéressant.
J'espère bien que c'est intéressant.
C'est bien, ça ajoute sur le financement, parce que quand on met de l'argent, parce que la prime rénove...
C'est ça le truc.
Donne des avantages pour faire... Si effectivement on a la possibilité en plus d'avoir un levier fiscal...
Vous avez la prime rénove, vous avez le PTZ maintenant qui est mis en place pour le complément. Parce que la prime rénov', quand on fait le calcul sur le simulateur,
ça fait 30%.
Ça fait pas BZF. Hein.
Ouais, ouais.
Bon, vous avez le PTZ si vous y avez encore droit. Bon, ok, très bien. Et pour le complément. Et puis après, si vous n'y êtes pas arrivé à avoir toutes ces aides, ce que vous avez mis de votre poche, vous pouvez le déduire soit sur les revenus fonciers, soit sur la plus-value.
C'est super
future.
Bien, bravo. Top.
Thierry Delsalle, une autre question pour vous. Elisa et son mari ont fait une donation de leur maison familiale à leurs enfants il y a 8 ans. Ils ont l'usufruit, les enfants ont la nue propriété. Le couple souhaite vendre ce bien et en racheter un autre pour la retraite. Est-il possible de transférer la donation d'un bien sur l'autre tout en minimisant les frais?
Ouais, c'est une donation directe.
C'est
pas par une société civile.
Ouais.
Donc le principe d'avoir donné, il faut, pour faire ensuite un acte de disposition, l'accord de tout le monde.
Ouais.
Accord unanime. Donc forcément les parents et les enfants. Et donc une fois qu'on a cela avec l'autorité des parents, on peut tout faire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une subrogation et on remploie la totalité du prix, tout ou partie, dans l'acquisition d'un autre bien. Quitte même peut-être à en rajouter un coup. Bon, c'est à voir, ou en moins. En tout cas, il peut y avoir une subrogation totale et ça coûte rien.
Mais c'est ça.
Simplement, il faut l'accord des enfants.
Oui.
Et dans l'acte d'acquisition, on sera dit que tout le financement provient de la vente du bien qui a été donné, gna 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 gna. Bon. Donc là, c'est vrai que si un des enfants sur les trois, admettons, dit non, 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 et moi je veux...
C'est la maison de famille, je veux la garder.
Je veux les sous. Hein,
ah oui, bah, on veux les sous.
Eh ben oui, on peut partager à ce moment-là. Très bien, on partage.
Qui s'oppose aussi au transfert.
Mais on peut partager en disant, ben, y en a un des trois qui veut les sous, très bien, on lui refile, et les deux autres, c'est des gentils enfants, on réemploie de la même manière, et donc du coup, ça sera nue propriété et usufruit pour les parents et les deux enfants restants. Mmh. Ouais, tout est possible.
Et oui, bien
c'est
sûr.
Très souple. Maintenant, si c'est fait à l'intérieur d'une société civile, et que c'est des parts de société qui ont été données.
Ça a l'air plus simple.
Mais là, c'est peut-être plus simple. Il n'y a peut-être pas besoin de l'accord de tout le monde. Ça dépend des statuts. Si on a donné les pouvoirs aux usufruitiers gérants de vendre l'actif. C'est plus ou moins discuté par la jurisprudence. Mais bon, si c'est dans l'intérêt de la société, justement de vendre pour racheter, moi, je ne vois pas trop de difficultés devant les tribunaux. Ça... Même si c'est attaqué par un des enfants qui veut récupérer sa mise, je pense qu'on peut gagner parce que c'est dans les statuts. Les parents gérants ont les pouvoirs pour vendre et auquel cas, il n'y a même pas besoin de l'accord des enfants. Bon, c'est bien d'être transparent et de le dire.
Mais... Oui, c'est mieux.
Mais dans une société civile, c'est plus facile.
C'est très
clair. Si c'est prévu à l'avance.
Merci beaucoup, Thierry Delsalle. Votre étude à retrouver sur opera-notaire.fr. À bientôt dans le grand rendez-vous de l'immobilier.
Merci beaucoup. Merci.
On se retrouve le mois prochain. D'ici là, une seule adresse, le groupe Facebook Le Club des Proprios. Vous y posez vos questions et on les présente à nos experts là, le mois prochain.
Voilà, tout est dit. Merci Thierry Delsalle. On se retrouve pour la séquence Ça vous concerne le mois prochain.
Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien voilà les amis, toutes les bonnes choses ont une fin. Merci pour votre fidélité. C'était le 39e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier auquel nous nous sommes prêtés, avec toujours autant de plaisir, n'est-ce pas Guillaume ? On va se retrouver en juin prochain et on va faire une spéciale marché de l'été de l'immobilier, notamment juste avant les vacances.
Oui, les prix à la mi-saison, à mi-année, les tendances, les opportunités d'achat, on fera un point complet, que ce soit pour acheter une résidence principale ou... D'ailleurs, une résidence secondaire.
Voilà, des bons conseils et qui vous permettront de vous éclairer, surtout dans le millefeuille normatif des règles, des audits multiples, pour vous aider à y repérer. D'ailleurs, n'hésitez pas, bien évidemment, à poser toutes vos questions sur le Club des Proprios qui est animé sur la page avec nos amis de Capital. Rendez-vous donc le 17 juin pour ce 40e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Merci aux équipes de Capital et de Radio Immo pour la préparation de cette émission. Merci à vous et n'hésitez pas à nous retrouver en podcast avant le prochain numéro. On se retrouve à très vite.
Merci.
Radio Immo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération, à retrouver sur radioimmo.fr et capital.fr.